Dans le tempo, vous êtes dans l'épisode 48, vous avez eu raison de le lancer, c'est parti.
Bienvenue dans DLT, le
bonjour, podcast Salman. Des passionnés de musique d'Az. Oui. Tu connais un peu DLT?
Je connais vite fait, ouais.
Ouais,
ça commence à faire, hein, mine de rien. On se disait là justement, hors antenne, c'est la 48, je suis arrivé à la 25.
Ouais.
Moi j'ai l'impression que ça fait 8 ans que je fais ce truc-là.
C'est bon signe ou mauvais signe que
bah,
tu dis?
Ouais, parce que le temps passe. Ah ouais, alors attends, dans ce sens-là, est-ce que c'est bon signe ou mauvais signe?
Moi je pense que c'est bon signe.
C'est plutôt bon signe.
C'est que t'es à l'aise,
ouais,
tu sens comme
ça.
À la maison.
Ouais, exactement.
On est d'accord?
Exactement.
C'est comme ça que ça se passe.
C'est ça, c'est complètement ça.
En tout cas, tu sais, Daz, ici, on explore toutes les facettes de la musique.
Oui, c'est vrai.
Cet univers absolument passionnant. Et comme tu le disais, effectivement, on se rapproche de l'épisode 50. On fera pas un truc pour le 50, Daz. Parce
d'accord.
que ça va tomber en plein été. Mais
okay.
Je le dis à nos auditeurs, à ceux qui nous regardent. Je pense qu'on fera un truc spécial, peut-être le 52, 53, un truc comme ça. On va se faire plaisir.
Ok, j'ai hâte.
On sait pas quoi encore, mais on va se faire plaisir, on va essayer. En attendant, figure-toi qu'on va parler d'un sujet, comme toujours, passionnant.
Bah évidemment.
Tu sais c'est lequel, toi?
Alors, c'est écrit sur le frigo.
Ouais. Ouais.
Je crois qu'on va parler musique,
ouais.
mais pas n'importe laquelle.
Vas-y.
On va parler musique dans l'éducation nationale.
C'est vrai.
C'est ça, hein.
Ça paraît un peu chiant, mais en fait, ouais. c'est trop cool.
On va parler des profs de musique. On va parler de la flûte à bec.
C'est des êtres bizarres,
ouais.
les profs de musique.
Ouais. Les profs déjà de base.
Pour les élèves, les profs c'est bizarre, on est d'accord. Hein.
Déjà.
Très bien.
De base.
Donc on reçoit Anne-Claire et Nicolas qui sont donc profs de musique respectivement au lycée
ouais.
et au collège.
Tout à fait.
Et on a plein de questions à poser.
Écoute, ouais, parce que tu sais, l'éducation musicale, que ce soit au collège ou au lycée, bah mine de rien, c'est le lien avec lequel la plupart des gens ont un lien avec la musique à travers l'éducation musicale au collège, que c'est un enseignement obligatoire. Et on prend rarement le temps d'en parler, de savoir comment ça marche, comment le programme se passe.
Est-ce que ça marche déjà?
Est-ce que ça marche?
Est-ce que
vous arrivez à passionner des élèves pour la musique? J'espère, on va en discuter. Mais effectivement, je présente quand même rapidement. On
ouais.
a Anne-Claire Sebalt et Nico Olivier avec nous. Merci beaucoup d'être là.
Ben, merci de l'invitation.
Merci à vous.
Avec grand plaisir. Anne-Claire, je te présente aussi rapidement.
Ouais.
Professeur agrégé d'éducation musicale. T'enseignes à peu près depuis 10 ans. On est d'accord?
Bien plus, mais
bien
ouais,
plus,
ça marche.
Combien
ouais,
de temps?
Je prends
combien
10 ans.
De temps, dis-nous.
Ah, elle est une vingtaine d'années, là.
C'est vrai, ouais, ouais. vingtaine d'années.
Petite
Alors,
vingtaine.
Est-ce que
ouais.
c'est dans ton lycée actuel que ça fait une dizaine d'années?
Ouais, voilà, dans mon
c'est
lycée, une
ça,
dizaine
hein.
d'années. Ouais,
okay.
c'est ça, exactement.
C'est, oui, donc tu enseignes au lycée à Épinal. En parallèle, mine de rien, tu es vice-présidente de l'APMU,
l'Association des professeurs d'éducation musicale.
Dont tu as été la présidente pendant pas mal d'années aussi.
Longtemps aussi, ouais.
Et votre rôle, eh bien, c'est un peu d'une certaine manière de représenter la profession ou du moins de rassembler, de discuter, de réfléchir
voilà,
autour de votre métier.
Tu as résumé effectivement ouais. Tous les rôles, réfléchir ensemble, mutualiser. Ouais. C'est aussi une instance représentante au niveau du ministère ouais. quand il y a des discussions sur des réformes, sur des programmes. Donc on est l'interlocuteur, je dirais, de l'institution. Ouais. Et puis en même temps, un rôle associatif de faire vivre l'éducation musicale avec les enseignants, avec les adhérents.
Bah, ce qui est passionnant, c'est que tu as un regard plus large, je dirais, sur la profession, au-delà de ton expérience individuelle, qui est déjà de la valeur, mais en plus, à travers tes échanges, vous faites aussi régulièrement des études, des choses comme
On
ça.
On a fait voilà, plusieurs enquêtes. Mmh. La dernière, qui date donc de cette année, c'est une enquête qu'on avait déjà menée en 2012. Et puis, on a voulu reposer un peu les mêmes questions pour évaluer l'évolution du métier d'enseignant et voir si les pratiques changent, si le ressenti change, etc. Avoir des données un peu chiffrées.
C'est une enquête qui est ciblée sur les enseignants ou sur les élèves ou les deux?
Alors c'est une enquête qui interrogeait uniquement les enseignants. On
D'accord.
a eu 1100 participations, donc c'est un taux de représentation qui est tout à fait correct.
Il y a combien de profs de musique en France?
À peu près 6500.
Okay. Ah ouais, oui,
donc
1000
on est
sur
déjà,
6000, c'est pas mal.
On est déjà sur une
ouais.
vraie représentativité, mais alors elle a été posée qu'aux enseignants, mais elle questionne aussi elle rapport à l'élève, elle rapport à la pratique, au contenu, et puis tout un tas de questions qui peuvent paraître anecdotiques, mais par exemple l'équipement de la salle. Mais au final, quand on parle d'équipement de la salle, on parle bien des pratiques, parce que selon ce qui est disponible, selon aussi la manière dont l'enseignant organise sa salle, on peut voir aussi ce qui se fait au quotidien dans le cours de musique, en fait.
D'accord. Il y a des disparités, vraiment?
Des disparités, oui, forcément.
Vas-y, veux rentrer dans le
voilà, vif. Alors, parlons de la flûte, donc. Non, on va peut-être tout de suite déconstruire cette idée de flûte à bec et de pratique musicale. En fait, la flûte à bec, c'est un instrument qui a eu son temps, qui était un instrument de démocratisation, faut le prendre comme ça, parce que ça permettait à tous les élèves de faire de la musique, et c'est un projet qui est très très noble, on peut pas enlever ça. Et pour être très brève, c'est un instrument qui a disparu parce qu'il a été supplanté par d'autres possibilités de pratique. Mmh. Simplement pour ça, il y a eu des programmes en 2008 qui sont venus bouleverser, je dirais, un peu les pratiques des enseignants. Donc c'est des programmes qui ont amené les enseignants à se diriger davantage vers la pratique vocale. Et aujourd'hui, quand on analyse les chiffres qu'on a, on voit qu'il y a une inversion complète de l'outil de pratique qui, à un moment donné, était effectivement la flûte à bec et qui est maintenant la voix, incontestablement la voix et sous toutes ses formes, hein, sous sa forme chantée mais aussi sous sa forme parlée, et petit à petit on voit aussi émerger et plus qu'émerger, on voit une généralisation de l'utilisation des outils numériques. Mmh. Parce que la flûte à bec, c'était un outil accessible, un instrument accessible, mais temps, maintenant ouais. À l'heure actuelle, on sait très bien qu'on peut acheter des instruments pour des sommes tout à fait...
Écoute Anne-Claire, voilà. C'est parfait que tu parles d'outils numériques.
Elle a tué la flûte à bec dès le départ.
Dès le départ,
j'ai fait une belle entrée comme ça. La flûte à bec, c'est fait.
Et maintenant, c'est Nicolas Olivier. Voilà. Nicolas Olivier, merci beaucoup aussi d'être avec nous.
Merci à vous.
Professeur également d'éducation musicale. Et d'ailleurs, le terme exact serait d'éducation musicale et de chant choral.
Exactement.
Toi, tu enseignes au collège.
À Toulouse.
Tu es de la région toulousaine.
C'est ça,
absolument. Et ce qui est génial avec ton profil, c'est que, bon, évidemment, comme la plupart des enseignants, j'imagine, en musique, tu es aussi musicien toi-même, tu es guitariste, passionné de MAO, de musique assistée par ordinateur, plus globalement d'enseignement, de formation. Ce qui t'a amené à créer une chaîne YouTube, Nico Olivier, on peut te trouver sur YouTube, et tu fais là des reviews de matériel, tu partages ton savoir musical autour de la MAO, même parfois tu décris un peu ton métier quand même. On voit par exemple récemment comment tu as aménagé ta classe pour le cable management,
tu
vois,
c'est ça.
Comment t'as mis tout le matériel à disposition, etc.
Ouais.
Donc une belle expérience extrêmement tournée effectivement vers les outils numériques. Mmh. Je pense que ça c'est un des éléments aussi qui nous intéresse à Fondaz, de parler de tout ça. Voilà, est-ce qu'on fait de la musique avec des ordinateurs aujourd'hui? Est-ce qu'on a des contrôleurs MIDI? Est-ce qu'on a des plugins, des choses comme ça, on va en discuter.
Très bien.
Super. Vous savez quoi? Pour commencer, je pense qu'il va falloir qu'on reprenne les bases. Parce que moi, je me rappelle, en tant qu'élève, évidemment, j'ai connu les cours d'éducation musicale. Bon, j'avais pas trop de recul, à vrai dire, sur la pratique.
Je prenais les cours de musique à l'époque.
Hein. C'est les cours de musique. Et puis après, je sais plus du tout aujourd'hui comment ça se passe. J'ai même jamais su comment on devient prof de musique. Est-ce que c'est le même parcours que les autres profs, etc. Bref, on va en discuter. On reprend les bases, l'éducation musicale à l'école, et on va commencer par le truc essentiel, c'est obligatoire d'apprendre la musique à l'école. Comment ça se passe, collège, lycée?
C'est toujours obligatoire, c'est toujours dans les programmes, en fait, dès l'école maternelle, l'école primaire, il y a un programme d'éducation musicale que les enseignants professeurs des écoles, hein, c'est comme ça qu'on les appelle, sont censés dispenser, soit à travers de la venue d'intervenants musicaux, et donc là il y a aussi des formations pour intervenir en musique, soit au sein même de leur formation en tant que professeurs des écoles, ils ont souvent des petits modules de formation sur comment enseigner l'éducation musicale. Et effectivement, ensuite, au collège, il y a un programme que vous avez tous connu et vécu tant bien que mal. Et ce n'est qu'au lycée que la musique devient une option.
Ok.
Alors, Anne-Claire, tu me corriges si je me trompe, mais est-ce que j'ai tout bien dit?
Eh ben, c'est parfait. Une option en seconde, une option facultative hein, qui s'adresse à tous les élèves. Au collège, c'est une heure par semaine pour tous les élèves. Et puis, au lycée, l'option 3 heures en seconde, et puis ensuite l'élève peut choisir de continuer l'option ou alors c'est que dans certains lycées hein, elle est pas ouverte dans tous les lycées, ou bien poursuivre en spécialité musique, parce que avec la réforme du bac maintenant, un élève de première va choisir 3 spécialités parmi l'offre de formation de son établissement, et il peut très bien choisir une spécialité musique. Donc après, c'est 4 heures en première et 6 heures en terminale.
C'est intense.
Assez intense, oui, puis avec un programme très très passionnant, parce qu'au final, les élèves développent de vraies qualités musicales. C'est plus seulement une éducation musicale, mais c'est aussi apprendre à être musicien, à jouer, à créer, à écouter.
Mmh. Ok.
Et dès le collège, à cela s'ajoute la possibilité de mettre en place un enseignement choral, d'où le nom éducation musicale et chant choral, et donc effectivement qui se poursuit éventuellement aussi au lycée.
Voilà,
donc souvent,
pareil.
Au lycée, ils sont invités à rejoindre le cours de chorale.
Ok. Autre question assez basique, comment on devient prof de musique? Est-ce que c'est exactement le même parcours qu'un prof classique, sauf que voilà, on a notre spécialité? Est-ce qu'on doit passer, je sais pas, le CAPES, comme la plupart des profs? Comment ça se passe?
Bah oui, exactement comme n'importe quelle discipline. Hein, okay. On passe un CAPES ou une agrégation. Et voilà.
Et dans le cursus, on est jugé sur notre savoir musical aussi ou...
Alors, oui. Savoir et compétences hein, ouais. musicales. Ouais. Parce qu'effectivement, notre concours, il a cette particularité d'évaluer aussi bien nos compétences d'un point de vue pédagogique que nos compétences et notre savoir effectivement musical, mais aussi nos compétences purement instrumentales et aussi auditives. Ouais. Donc effectivement, dans les différentes épreuves que sont l'agrégation et le CAPES, on a effectivement des épreuves qui vont solliciter toutes ces compétences-là.
C'est-à-dire qu'un prof de musique doit être capable vraiment de jouer d'un instrument.
Jouer d'un instrument, oui, accompagner.
Genre c'est obligatoire, quoi. C'est vraiment si tu ne sais pas, même si t'as de la pédagogie, que tu connais bien la musique, etc., mais que malheureusement t'es incapable de jouer de la guitare ou du piano,
c'est ça.
Tu ne peux pas être prof de musique.
Un instrument accompagnateur, c'est ce qui est écrit dans les textes. D'accord. Ça peut être l'accordéon, ça peut être le piano, ça peut être la guitare, la harpe, pourquoi pas. Mais il est vrai que dans la pratique, on attend quand même qu'on soit utilisateur soit du piano, soit de la guitare.
En fait, c'est une compétence professionnelle. C'est-à-dire que dans le quotidien d'un professeur d'éducation musicale, le professeur accompagne ses élèves, est capable de les accompagner, effectivement, que ce soit à la guitare ou au piano, l'idéal, parfois les deux. Mm-hmm. Et d'autres épreuves aussi qui mettent en valeur d'autres compétences professionnelles, d'écoute, par exemple, il y a une épreuve de commentaire d'écoute à l'écrit.
Ouais.
À l'écrit, il y a une épreuve d'arrangement où le candidat doit arranger un texte musical parce que c'est le quotidien.
Mais c'est quand même
on
super
a une chorale.
Pointu.
Oui, mais.
Ouais. Parce qu'un prof de sport, on a tous eu des profs de sport où on savait qu'ils faisaient pas trop de sport, tu vois.
C'est pas trop vrai, mais.
Après, il y a des profs de sport.
Si les profs de sport nous regardent. Mais c'est un bon exemple, que ce soit prof de sport ou prof d'art plastique, forcément, c'est trois disciplines qui demandent des compétences techniques. Qui peut-être au départ sont pas, enfin quand tu dis on a des profs de sport qui faisaient pas de sport, peut-être
plus trop quoi.
Oui, mais c'est pas ça la question. C'est est-ce que au moment de valider le CAPES, ils avaient les aptitudes, voilà. Et ensuite, est-ce que leur compétences physiques, de la même manière que moi je suis pianiste, je suis plus forcément concertiste comme j'ai pu l'être à un moment donné où je pouvais jouer du piano. Voilà, en concert, mais en tout cas la compétence pour accompagner les élèves, elle est là, et c'est ça l'essentiel, c'est être capable de mobiliser ces compétences-là professionnellement. Ouais.
Autre question bête, est-ce qu'il y a, entre toutes les différentes disciplines quand on veut devenir professeur, un socle commun? C'est-à-dire que vous pouvez dépanner pour d'autres enseignements ou
genre prof de bio ou
peut-être pas à ce point, j'en sais rien, mais est-ce que c'est vraiment très spécifique, chaque concours pour chaque discipline est propre à... Voilà.
C'est comme ça. Okay. Chaque concours, pour chaque discipline, néanmoins, il y a des ponts qui sont possibles.
Oui, il y a un socle commun dans la formation.
Voilà. Okay.
Dans la formation, dans les INSPE, effectivement, il y a des modules communs, parce que ce soit, que ça aille de la psychologie de l'adolescent, jusqu'à, je sais pas moi, l'éducation à la citoyenneté, il y a des sujets transversaux, des sujets communs entre toutes les disciplines.
Et la pédagogie, tout simplement.
Exactement. Ouais.
Mais on n'est pas appelé à être prof de SVT du tout. Voilà.
Ouais. Parce que parfois, dans d'autres disciplines, on entend des espèces de ponts quand même qui peuvent exister, de dépannage, etc. C'est pas forcément une réalité.
Non, je pense pas. Non, ouais. Non. Après, c'est sûr que c'est des. De toute façon, le métier d'enseignant, il est amené aussi à se diversifier parce que les profils d'élèves, les élèves à profil particulier, vont demander aussi des accompagnements particuliers. Donc, forcément, un professeur d'éducation musicale, nous on l'a un peu évalué dans les chiffres. Il est amené, enfin dans les enquêtes qu'on a menées, il est amené aussi à accompagner les élèves, par exemple, à devoirs faits. Alors, il est pas prof de maths, mais quand il faut accompagner un élève de sixième pour faire les devoirs de maths, il est en mesure de le faire, ou en tout cas de trouver les ressources pour accompagner l'élève. Il est amené à accompagner des élèves sur d'autres, la préparation du brevet, la préparation à l'oral. Enfin, il y a des compétences qui sont transversales et qui peuvent être développées par l'enseignant, quelle que soit sa discipline.
Oui.
Après, savoir est-ce qu'un prof d'éducation musicale peut être appelé pour aller remplacer le prof de bio de SVT.
Pas trop, quoi.
Non, ouais. Non.
Et il y a un esprit de corps quand même, de l'idée qu'on fait le même métier, ou est-ce que...
Parce que vous êtes des saltimbanques. Non, dans la salle des profs, vous êtes à l'écart.
Il y a un peu de ça, parce que on va pas se le cacher. On a souvent l'idée que les mathématiques, le français, etc., c'est des disciplines essentielles. Et puis qu'après, il y a les trucs qui gravitent autour. À l'époque, la techno, je sais plus comment ça s'appelle aujourd'hui d'ailleurs, les arts plastiques, la musique, etc., où on se dit, bon, c'est un peu à part, peut-être. Est-ce qu'on le vit comme ça, au sein d'un collège?
Par le nombre d'heures finalement par semaine.
Absolument.
Notamment au collège.
Absolument.
Une heure par semaine. Je pense que, il y a une heure d'art plastique aussi.
C'est ça.
Ouais. Alors qu'il y a 157 heures de d'histoire géo.
C'est
de français,
ça. Ça, c'est le temps ressenti.
Ouais. Comment ça se passe au quotidien?
Pour moi, et tu diras ce que t'en penses, pour moi, c'est un combat que j'ai eu dans chaque établissement, qui est différent dans chaque établissement. C'est-à-dire quand, moi, je sais que j'ai installé une telle culture de la musique dans les établissements dans lesquels je suis passé, que ma voix et ma présence aussi au conseil de classe, aux réunions, ont fait que ma voix compte. Et puis, j'ai pris des missions dans l'établissement, comme prof principal notamment, qui ont fait que j'ai un poids qui est différent. Et donc, à travers cette action, j'ai donné à l'éducation musicale un poids qu'elle n'avait peut-être pas forcément.
C'est pas forcément naturel, cette position.
Disons que moi, je subis toujours les petites blagues de la dernière roue du carrosse. Oui, non, mais en musique. Ouais. Mais c'est à moi, justement, de dire non, justement, c'est parce qu'on est en musique que moi, les élèves, je les vois différemment et que je peux apporter un regard différent et qui est important aussi. Et voilà, ma parole aujourd'hui, elle compte autant qu'un prof de mathématiques et j'ai pas à souffrir de cette comparaison aujourd'hui. Mais c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, et quand je suis arrivé en tant que jeune prof, je l'ai pris en pleine tête.
Ce qui est marrant, c'est qu'en plus, c'est des clichés qui perdurent parce qu'ils sont aussi transmis, notamment dans le cinéma, tu vois. Genre un film comme La vie scolaire, par exemple, on sait qu'il y a un prof de musique dedans et que personne respecte le prof de musique parce que t'es prof de musique, mec, tu vois. Ouais. Donc,
c'est quoi ton vécu par rapport à ça, toi, Anne-Claire?
Moi, c'est différent parce que je suis au lycée, donc c'est une spécialité au même titre que les autres spécialités.
Après, c'est un choix de l'élève.
C'est un choix de l'élève. Et puis après, comme il y a plusieurs possibilités de spécialité, elle est au même rang que les autres, elle est évaluée comme les autres, elle a le même coefficient au bac. Donc la question, elle se pose pas en ces termes au lycée. Maintenant, ce que j'entends dans ce que dit Nicolas, qui est une réalité, c'est l'investissement des collègues. Nous, dans notre enquête, on a évalué 97% des enseignants de musique assument au moins une autre mission au sein de l'établissement.
D'accord.
Ça veut dire que c'est des personnels qui rayonnent, qui s'engagent soit au sein du conseil d'administration de l'établissement, du conseil pédagogique, ou bien dans des parcours, dans le parcours d'éducation artistique et culturelle. Et donc, alors ce rayonnement-là, d'abord, effectivement, il donne une forme de légitimité au sein de la communauté scolaire, ça c'est certain. Et ce que disait Nicolas sur le regard de l'enseignant, il faut dire que en tant que professeur d'éducation musicale, on a un regard qui est très spécifique sur l'élève, puisque on le voit dans d'autres, je dirais, dans d'autres pratiques, dans d'autres conditions, dans d'autres types de projets. Donc on a un regard qui est forcément différent sur les compétences des élèves, mais aussi sur leur capacité, mais aussi sur des compétences transversales de vivre ensemble, d'autonomie, du projet, du collectif, etc. Et ce qui est différent aussi et qui fait que le professeur d'éducation musicale a forcément un poids qui est différent, c'est qu'en général on est tout seul dans notre établissement, puisque comme les élèves n'ont qu'une heure par semaine, et donc on suit les élèves sur 4 ans. Et ça donne un regard qui est...
Tu les vois grandir.
On les voit évoluer. On peut aussi détecter quand il y a des accidents de la vie, ou en tout cas accompagner l'élève dans ces 4 années-là. Et je crois au final que c'est quelque chose de très précieux au sein des équipes l'équipe pédagogique, parce que il y a peu d'enseignants qui sont en mesure de dire ah bah oui, quand il est arrivé en sixième, il était plutôt dans ce type de profil, et là on sent qu'il y a une évolution vers telle tendance, et ça c'est quelque chose de très précieux.
Que, effectivement, en termes de staff de prof d'éducation musicale, c'est vrai que généralement c'est un par établissement.
Ouais. Voilà. Ça dépend de la taille évidemment des établissements. Mais donc là, c'est la taille qui compte. Mais pardon. Non, je voulais ajouter qu'effectivement, il y a aussi une dimension de dépassement de soi. Je prends l'exemple d'une élève, coucou Delphine si tu nous vois, qui effectivement, à travers la chorale et la possibilité de prendre des solos devant des centaines de personnes, a su progresser et prendre sa place comme ça et être capable de chanter devant 400 personnes en fin d'année. Et elle est là depuis la sixième, elle est en quatrième. Moi, je l'ai vu. C'est exactement ce que tu dis. Je l'ai vu progresser, j'ai vu éclore, et là, je dis waouh, là, on a atteint un truc auquel je m'attendais pas. Et il y a aussi le lien avec la famille, c'est-à-dire que nous, effectivement, les parents, ils nous connaissent déjà des frères et sœurs avant, et donc au bout de 4 ans, on a ce lien là aussi qui est très très fort, effectivement.
Est-ce que cet aspect peut-être pas d'hiérarchie, mais en tout cas le fait que ça soit pas exactement logé à la même enseigne que d'autres enseignements qui sont jugés comme cruciaux, essentiels, ça se ressent aussi dans le lien avec votre ministère, qui est en l'occurrence celui de l'éducation nationale.
C'est la question que je voulais poser.
Et je dirais même d'un point de vue budgétaire aussi. Est-ce que vous sentez qu'il y a une différence dans l'investissement, ce qui vous est demandé, ce qui est mis à votre disposition?
Blanquer ou Ndiaye? Ça la question. La France veut savoir.
La France veut savoir. Il faut, en fait, ce qu'il faut voir derrière ça, c'est ce que la musique peut apporter au système éducatif et à l'école de la République. Et effectivement, sous le ministre Blanquer, on a vu naître la rentrée en musique. Il a donné une vraie impulsion. Ouais. Voilà, la chorale qui était une sorte d'enseignement hybride. On savait pas trop ce que c'était avant la chorale. Est-ce que c'était un club? Est-ce que c'était un enseignement? On disait que c'était un enseignement, mais parfois on mettait pas les heures. Enfin voilà. Sous le ministère Blanquer est devenu un enseignement facultatif. Donc quelque chose de réglementé, d'installé au sein de l'école. Et derrière ça, effectivement, c'est une discipline d'éducation musicale qui est peut-être un peu plus jeune que les autres disciplines. Hein, le CAPES d'éducation musicale, il date de 78. Mais en termes de considération, ça dépend de la place qu'on prend. Ouais. Ça dépend de la place qu'on veut prendre au sein de l'institution. Considération du ministère. Oui, je sais bien, mais la place qu'on nous laisse, elle est statutaire. Je veux dire, il y a une heure de musique par semaine pour tous les enfants dans l'école de la République. Après, chacun s'en empare comme il le veut. Après, au local, effectivement, avec les chefs d'établissement, ça dépend aussi du rayonnement que peut apporter l'enseignant, de sa participation. Nous, ce qu'on voit, c'est que les collègues, depuis une dizaine d'années, font de plus en plus de concerts, de plus en plus de spectacles et participent de plus en plus aux manifestations patriotiques, 8 mai, 11 novembre, cérémonies diverses, où on voit que la musique, la chorale, joue un rôle central au sein de l'établissement et au sein de la cité. Après, c'est sûr que c'est pas comme une discipline entre guillemets classique de mathématiques ou de français, où effectivement nous on est amené à porter à l'extérieur ce qui se fait à l'intérieur de l'école. Alors il y a cette attente de rayonnement, et quand ça rayonne pas, on dit ah bah oui, mais il n'y a pas eu de concert. Mais en même temps, est-ce qu'on demande aux autres enseignants la même chose?
Voilà, un festival de maths.
Il y a un festival de maths qui s'appelle Math Engine. mais voilà, en fait, c'est derrière ça, il y a quand même il y a le cadre réglementaire, hein, ce qui est donné aux enseignants pour fonctionner. Que ce soit l'heure d'éducation musicale, l'heure de chorale, des indemnités pour faire fonctionner tout ça. Et puis il y a le rayonnement de l'enseignant, je dirais, mais comme dans toutes les matières.
Ça c'est un point intéressant, parce que on va tout de suite très vite embrayer sur l'enseignement, et effectivement on se pose toute cette question. C'est ok, il y a un programme, mais ensuite dans quelle mesure il y a une marge de manœuvre spécifique à chaque enseignant? C'est un peu ce que tu es en train de nous dire aussi, c'est que c'est à chacun aussi de prendre une place au sein d'un établissement, quelle orientation ils veulent donner à son enseignement aussi, etc. En tout cas, j'ai l'impression que c'est ce que tu nous dis.
Il y a quand même des blocs d'enseignement à respecter.
Ça, bien sûr. Mais ça, on va en discuter, et juste peut-être le ressenti de Nico par rapport à cette idée justement de de la place au sein de l'éducation nationale, de l'enseignement, de l'éducation musicale. Est-ce que tu te considères considéré justement par ton ministère? Est-ce que les moyens sont mis à disposition? Est-ce que parfois on se dit putain, il y a des disciplines quand même où ils sont favorisés et nous on met un peu de côté, alors qu'en fait c'est important ce qu'on fait.
J'ai juste une question, c'est est-ce qu'on considère que l'éducation musicale est une discipline qui peut sanctionner quelque chose? Est-ce que t'as déjà redoublé parce que tu savais pas ton solfège? Non mais vraie question, tu vois. C'est-à-dire que tu peux retaper une classe parce que t'es mauvais en français, en histoire géo, en maths, mais est-ce que si t'es mauvais, mais vraiment genre nul en musique, la personne zéro rythme, comprend rien, tu vois, mais ça a pas d'impact sur son cursus scolaire?
Non, pas du tout. Surtout qu'on fait plus de solfège depuis bien longtemps.
En plus. Donc, bon, ben voilà.
Mais de toute façon, on évalue la scolarité des élèves au regard de la totalité des disciplines. Ouais. Et on ne peut pas être bon partout. Donc à un moment donné, quand t'as un élève qui est super bon en histoire, en langue, mais pas en français et en maths, tu vas pas l'empêcher d'avancer. C'est justement chacun nos spécificités. Mais pour répondre à la question de Salman, c'est sûr que nous, je rejoins complètement Anne-Claire là-dessus. Tu peux faire tes 18 heures de musique ou tes 15 heures quand t'es agrégé, ok, et c'est tout. Mais tu peux aussi faire plus. Et rien que dans ces 18 heures ou ces 15 heures-là, tu peux, par exemple, communiquer les prods de tes élèves aux parents, leur montrer, en fait, ce que tu fais. Et pour moi, ça fait partie du métier parce qu'effectivement, comme l'art plastique, on est des matières qui peuvent sortir de la classe ce qu'elles produisent. Et donc, pour moi, c'est une mission de le faire pour faire rayonner, effectivement, ma matière. Et après, la chorale, tu peux la faire, tu peux ne pas la faire. Mais tu peux la faire juste avec un petit concert, ou tu peux chercher à te mettre avec d'autres profs et faire un effectif de 300-400 élèves sur scène avec orchestre, et donc avoir 1200 personnes en face de toi dans une grosse salle à Toulouse. Voilà.
Et pas de frustration de se dire parfois, oh, pour atteindre l'objectif que je me suis fixé avec mes élèves, j'aurais besoin de plus de temps, plus d'argent.
Oui, parce que c'est la question.
C'est ça.
Si tu veux faire une chorale inter-lycée ou inter-collège, c'est-à-dire qu'il y a des temps de répète qui seront pas sur le temps d'enseignement.
C'est
donc
ça.
Comment ça se passe? Tu demandes des heures sup?
J'explique que dans les heures, dans leur chorale qui nous est donnée, il y a 36 heures face élève et 36 heures qui sont, tu le diras mieux que moi, mais comprises justement pour ces répétitions que tu vas faire en plus, l'organisation des concerts. Tu parlais d'arrangement tout à l'heure, l'écriture des arrangements, parce que quand tu reprends Mathieu Chédid à la chorale, ça passe pas comme ça. Ouais. Faut que tu écrives pour eux, que tu retouches un peu, tu peux rajouter des voix pour faire de la polyphonie, etc. Il faut que tu...
Donc ça, c'est un objectif qu'on demande aux élèves, c'est de produire de la musique?
Alors là, je te parle du côté prof, là.
Ouais.
Ah oui, toi, là, c'est le côté prof, moi, quand je prépare mon répertoire choral. Ouais. Voilà tout ce que je vais faire pour mener à bien un projet.
Okay.
Voilà. Après, on reparlera de la classe, mais là, j'étais plus sur la chorale. Mmh. Effectivement. Et je me suis perdu.
Moi, j'allais revenir sur l'idée du ressenti des enseignants. Alors, nous, on avait évalué cette idée de est-ce que vous vous sentez reconnu par l'institution, par les élèves, par les parents, voilà. Ouais. Alors, plusieurs choses. D'abord, la première chose, c'est que dans notre évaluation, dans notre enquête, on a comparé ça avec les chiffres nationaux du ressenti des enseignants et les enseignants d'éducation musicale se sentent pas moins considérés que les autres. C'est des chiffres qui sont tout à fait équivalents et tout à fait comparables. Donc ça, c'est un premier point. C'est pas la discipline qui fait qu'on se sent considéré, mais de toute façon, il y a un contexte aussi général qui est un peu au prof bashing, etc. Et ça, c'est un ressenti qui est partagé
par tous les profs, toutes les matières.
C'est pas la matière qui fait. En même temps, nous, ce qu'on voit dans le ressenti des professeurs d'éducation musicale, c'est que plus ils font de projets, plus ils s'investissent dans la chorale ou dans d'autres projets, et plus ils se sentent reconnus, ce qui est logique puisqu'il y a une forme de rayonnement. Et voilà, j'allais enchaîner sur ce que tu disais, mais je me suis perdue aussi.
Ben voilà. Non, mais du coup, je rebondis en disant que pour répondre au fond, effectivement. On peut aussi débloquer des budgets par rapport à tout ça. Alors, ça marche pas à tous les coups, mais effectivement, il y a plusieurs voies de financement qui vont nous permettre de payer un bus pour aller jouer dans une autre ville, de payer une salle, de payer un agent de sécurité. Voilà. Mais c'est encore une fois une inertie. C'est-à-dire que si tu montres et tu rayonnes, forcément, le chef d'établissement, il va être plus enclin à mettre un peu de budget sur toi que si tu fais juste tes 18 heures.
Alors justement, question. Est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans des établissements où le chef d'établissement ne laissait pas de place à l'éducation musicale en dehors du socle
obligatoire? Ah oui, alors voilà, c'est ça que j'allais dire. Ouais. En fait, c'est l'idée du socle obligatoire. Ouais. Alors, je vais pas balancer sur mes anciens chefs d'établissement si c'est ce que tu voulais.
Dommage.
J'y vais
moi non plus.
J'y vais pas, je contourne le truc habilement. Tout à l'heure, tu disais, est-ce qu'on double parce que mais non, en fait, on est dans un enseignement général où toutes les disciplines concourent à des savoirs généraux, des savoirs fondamentaux. En musique, on apprend à lire, à écrire, à compter, comme en maths, comme en français. Ce sont tous des savoirs fondamentaux et par le biais des projets musicaux, que ce soit d'interprétation, de création, par l'écoute d'œuvres, l'analyse, par les débats, puisqu'il y a une compétence au collège qui s'appelle échanger, argumenter, débattre. Par toutes ces compétences-là, on vient nourrir en fait des compétences générales et qui vont servir à toutes les disciplines. Donc en fait, ce qu'on voit aussi, c'est que les profils des élèves, souvent, ils sont très homogènes. C'est-à-dire que il y a pas un élève qui est brillant en maths, en français, et puis très mauvais en musique, puisque de toute façon, ce sont plus ou moins les mêmes compétences qui sont déclinées, qui sont colorées, je dirais, de manière différente.
Et pour autant, l'intérêt, la passion, on se dit que naturellement, on peut un peu plus le susciter avec un élément comme la musique, par exemple. Non ? C'est pas une réalité, ça ?
Si, si. Moi, je trouve. Hein.
Ouais, bien sûr, l'intérêt, ouais. La passion, et puis une autre manière de mettre en œuvre ses savoirs, une autre manière de mettre en œuvre ses capacités, parce que effectivement, l'écrit peut poser problème à certains élèves. Alors, le fait de pouvoir pratiquer la musique sans passer par l'écrit, de pouvoir jouer, de pouvoir inventer, créer sans forcément être avec un stylo, ça permet aussi parfois de raccrocher des élèves qui auraient plus de difficultés, puis de prendre en compte tout simplement des profils très différents.
Alors, qu'est-ce qui a drivé ce changement d'approche sur l'éducation musicale ? Parce que moi, à mon époque, à moi, il y a des décennies, effectivement, c'était le solfège. Si tu savais pas lire une partition, t'étais dans la merde. Et puis voilà quoi. À quel moment, en fait, on s'est dit, c'est peut-être pas la bonne tech, c'est peut-être pas la bonne.
Tu sais quoi ? Pour répondre à tout ça, je pense qu'on peut passer à la deuxième partie.
Waouh !
Sur l'enseignement.
Transition journalistique.
En lui-même, justement. Et première question, et qui rejoint ce que dit Daz, est-ce que vous avez des missions clairement édictées par le ministère qui vous dit voilà votre but, vous êtes prof d'éducation musicale, vous devez faire ça.
Et puis qui fait ça, enfin, dans
ça
le
se passe comme ça.
Est-ce qu'il y a un musicien primordial au ministère
Est-ce que le ministre de l'Éducation nationale
est musicien.
Ça, on l'ignore. Il est entouré d'experts de toute façon, puisque forcément, il faut des experts pour écrire les programmes, dont l'inspection générale, qui mobilise aussi des inspecteurs territoriaux qui vont écrire les programmes. Alors, en fait, moi, j'allais revenir à ta question, et ta question, elle commençait où t'as dit professeur d'éducation musicale ou l'éducation musicale. Ouais. Mais en fait, c'est ça l'évolution. C'est que toi, quand t'as été au collège, moi quand j'étais au collège, c'était des cours de musique. Donc on apprenait la musique. Maintenant, il y a eu une lente évolution qui nous a conduit maintenant à parler d'éducation musicale. Et qu'est-ce que c'est l'éducation musicale ? C'est éduquer à la musique, éduquer à cet univers sonore qui est foisonnant, ce flot incessant de musique, éduquer à l'écouter, à l'apprivoiser, à le critiquer. Mais aussi, l'éducation musicale, c'est éduquer par la musique. Et utiliser la musique, la pratique, comme je le disais tout à l'heure, l'interprétation, la création, pour faire naître chez les élèves des compétences transversales ou bien des compétences techniques musicales. Et c'est ça l'évolution, c'est de se dire qu'on n'enseigne plus la musique, mais l'éducation musicale.
Ouais. Et on est passé vers l'idée de la pratique immédiate, alors que la flûte nécessitait l'apprentissage des notes. Là aujourd'hui, on s'efforce de trouver des façons de permettre à chaque élève de chanter, comme tu disais au tout début, tout de suite, de pouvoir faire du beatbox, de pouvoir taper sur son corps, de pouvoir taper sur des instruments, même jouer des instruments, du moment que ça nécessite pas un apprentissage long comme nous on connaît en tant que musicien, où on a passé des heures à répéter, alors qu'on sait très bien que tu peux très vite apprendre à faire Et ça, quasiment tout le monde peut y arriver. Si tu n'arrives pas à faire ça, bah, tu fais... Et puis, voilà. Et tu vas pouvoir, à partir de cette base, et les amener aussi à entrer dans une dimension créative que tu n'as pas citée, je crois. Et ça, c'est vraiment aussi un des axes forts de notre programme.
Et cet axe, voilà, c'est ce que j'allais te demander. Ouais. Ça apparaît dans le programme donc, que donne l'éducation, le c'est ministère ça. De l'Éducation nationale. Et ce programme, est-ce qu'il y a des grands éléments?
Alors voilà, il y a quatre grands thèmes, quatre grands champs de compétences. Mmh. Le premier, donc réaliser des projets musicaux d'interprétation et de création.
Okay. Donc l'élève est capable de faire de la musique.
L'élève interprète, il chante, ou bien il joue, ou bien il joue et il chante, et il crée. Mmh. Ça, c'est le premier. Ensuite, écouter, comparer et construire une culture commune. Donc des pratiques d'écoute sur des répertoires variés. Puis après, je reviendrai à l'idée de répertoires variés, parce que aussi derrière l'abandon de la flûte à bec, c'est aussi ça. C'est dire que la musique est plurielle et on parle des musiques. Et voilà. La troisième, explorer, imaginer, créer, produire. Donc explorer, c'est aussi prendre en compte l'idée que le son, il est bien plus vaste que simplement la musique, et explorer les sons.
C'est censé être une éducation sonore plus large que seulement la musique.
Oui. Ouais.
Mmh. Ah, je savais pas
et
ça.
Et puis le dernier, échanger, partager, argumenter, débattre. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, une compétence citoyenne qui permet à l'élève de s'inscrire dans une démarche critique de ce qu'il écoute, de ce qu'il perçoit.
Ça c'est les missions.
Ouais.
C'est les quatre champs de compétences voilà. du programme.
Mais du coup, pour réussir à couvrir ces champs de compétences, est-ce que vous avez toute latitude sur le style de musique en fonction des élèves que vous avez? Parce que j'imagine que tous les élèves n'ont pas la même ouverture d'esprit par rapport à ce qu'on leur propose. Donc, est-ce que vous pouvez adapter ça vraiment et faire un genre de truc un peu sur mesure? Ou est-ce que le ministère, le musicien primordial à l'Éducation nationale, il a dit non, cette année, ça sera du Vianney. Et puis, c'est tout. Est-ce qu'il y a un truc comme ça? Est-ce qu'on
vous drive centaines de milliers de démissions.
Non, mais est-ce qu'on vous drive sur les artistes, machin, ou vraiment c'est open et vous faites ce que vous voulez, en fait?
Ça, c'est vrai que c'est la grande chance qu'on a, nous, dans notre programme par rapport à un programme d'histoire qui est écrit, tu vois. Ouais. Tu dois faire ça dans cet ordre. Nous, on a vraiment toute latitude pour choisir les œuvres qu'on veut, dans le style qu'on veut, l'époque qu'on veut. Mais notre mission, quand même, c'est justement aussi d'explorer toutes les musiques qui existent. Ouais. Et donc, même si tu vas faire écouter le dernier tube qui sort de Vianney, tu vas aussi aller chercher au Moyen-Âge quelque chose, et en Inde aussi, d'accord, pour justement comparer que dans ces trois musiques, on retrouve le phénomène de l'ostinato. Et donc, tu vas leur expliquer ce que c'est l'ostinato et leur dire, bah oui, en fait, on le retrouve dans toutes les époques, on le retrouve dans tout l'espace géographique, voilà, et tous les styles. Et donc, notre objectif, c'est ça. Et donc, parfois, même souvent, il arrive qu'on parte justement d'une œuvre qu'ils connaissent, qu'ils écoutent. Ah oui, et à partir de là, voilà, on leur dit, bah regardez, ça.
C'est des liens.
Et voilà. Un peu comme Combini la dernière fois.
C'est vrai. Et dans les programmes, est-ce qu'il y a quand même des passages obligés où on vous dit, bon, tel répertoire, il faut le voir, ou une question temporelle, dire qu'il faut voir un peu toutes les époques, etc. Il y a quand même un peu un encadrement de cet ordre-là, ou?
Il y a effectivement une demande d'aborder des répertoires diversifiés, aussi bien de la musique savante, des musiques traditionnelles.
Et c'est dit, musique savante, il faut que ce soit abordé?
Oui, il y a même le tableau.
Oui, il y a un tableau, voilà, avec des mais c'est très large. En fait, quand on a dit musique savante, c'est aussi dire que un élève qu'il ait écouté la 40e de Mozart, la 41e, la 39e, au final ce qui compte, c'est pas tellement le l'œuvre qui est mobilisée, mais c'est plutôt ce qu'on en fait, effectivement, comment on utilise cette œuvre-là pour venir éclairer des écoutes d'autres styles, d'autres époques, pour montrer quelque chose, des sortes d'invariants musicaux qu'on va retrouver dans toute musique.
Donc faire un petit peu d'histoire de la musique aussi.
Évidemment.
Poser des repères culturels, oui, évidemment. Ouais. Mais c'est ça aussi, quand on dit construire une culture commune, c'est aussi poser ses repères culturels et petit à petit permettre à l'élève d'avoir des repères aussi bien dans le temps que dans l'espace. Ouais.
Si on vous prend plus individuellement, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir une mission spécifique en lien avec la musique? C'est quelque chose que vous voulez transmettre aux élèves qui échappent peut-être au programme, je sais pas
Alors, qui échappe au programme, moi non, mais j'essaie de m'y inscrire pleinement. Mais effectivement, Moi, ce que je vise et ce que j'aimerais, c'est que chacun de mes élèves, de la sixième à la troisième, se sente bien dans son corps pour être capable de chanter et capable de suivre, tu vois, dans une soirée, il tombe sur une batterie, il sait faire un petit rythme, il sait tenir une pulsation, tu vois, et qu'il y ait une petite fibre musicale qui naisse, parce que moi, je les ai au collège, donc effectivement, ils vont pouvoir aller plus loin. Mais ça, c'est mon but. Et après, avec le numérique, avec GarageBand, moi, j'ai envie, tu vois, que les gamins, ils soient capables de comprendre ce que c'est un éditeur multipiste, de comprendre l'idée un petit peu vaguement de rôle et de chacun des instruments et de mixage un petit peu, que tu vois, si tu mets la batterie trop forte, on n'entend rien, donc il y a ce genre de petites choses-là, mais ça, voilà, ça c'est très personnel et qui touche en fait l'univers entier de la musique, tu vois, sous toutes ses formes. Tu parlais tout à l'heure, il n'y a pas que la musique, non, il y a aussi le timbre, tu vois, comprendre le son, etc. Donc si j'arrive à ce qu'il y ait un intérêt pour la musique et une petite fibre musicale qui soit née, moi je suis content.
Et globalement alors?
Eh ben globalement moi je trouve que ça marche parce que ben je retrouve des élèves actuellement, tu vois, sur Insta qui me contactent encore dernièrement. Je retiens pas leur blase, je suis absolument désolé, mais je vous fais une dédicace les gars, je vous taguerai, je vous promets, parce que je les ai dans les DM, tu vois, mais et j'en ai qui prod, j'ai des musiciens qui sont devenus des beatmakers, j'ai des élèves, hein, et des élèves qui sont devenus des rappeurs, tu vois. Et il y a un super guitariste aussi, et bon ben ça pour moi c'est c'est clair. J'ai une élève il y a longtemps aussi qui a voulu qui a découvert le chant au collège, que j'ai poussé à aller à la chorale et qui s'est inscrit à je sais plus laquelle, des télécrochets de voix.
Nouvelle Star ou...
Ouais, voilà. Mais c'était un spécifique voix The Voice. Merci, excuse-moi. Ouais. Voilà, qui s'était inscrit à The Voice. Alors, elle a passé le premier step, tu vois, pas après, mais déjà, c'est génial de te dire, attends, c'est moi qui lui ai dit, mais hey, tu chantes super bien.
T'as l'impression d'avoir suscité une vocation.
Exactement. Et là, tu te dis, bon, bah.
C'est le retour des élèves, en plus, enfin, au collège. Pardonnez mon langage, mais on est un peu con, on est un peu jeune, non mais tu vois, et on est très ingrat. Ouais. Donc savoir que des élèves poussent la découverte de la musique et en font parfois leur métier et se rappellent qu'en fait, bah, quelque part, ils doivent ça à toi ou à toi aussi, c'est quelque chose d'assez gratifiant. Ouais. Et
j'imagine. Ouais, c'est complètement parti pour ça qu'on fait ce métier, non?
Ouais. Ouais, alors pour ça, pas que aussi, aussi pour des émissions, je dirais, qui sont plus quotidiennes, de permettre à certains élèves d'être capables de prendre la parole. Là, on a maintenant au bac un grand oral parce que il y a une prise de conscience. Là, on est là, on fait un podcast. Est-ce que tout le monde est capable de venir, de parler derrière un micro, de poser sa voix, etc. Et tout ça, ce sont des compétences qu'on travaille en cours d'éducation musicale. Et parfois, le retour de certains élèves, c'est merci, vous m'avez aidé à traverser le collège parce que c'était une période difficile. Et moi, quand je venais en musique, j'avais beaucoup de plaisir à faire de la musique. Ou merci parce que moi, j'étais super timide, mais la technique vocale, elle m'a permis de me dépasser. Puis maintenant, quand je prends la parole en public, je suis confiant parce que j'ai une technique, ça peut être tout ça. Alors des élèves qui font de la musique, comme tu le disais, d'une pratique amateur, de l'ordre du plaisir. Je suis en soirée, je prends la guitare, je peux jouer quelques accords parce que j'ai appris ça.
Wonderwall.
C'est
à cause de vous.
Très chouette, voilà. Jusqu'à effectivement des élèves qui vont faire des carrières, mais aussi dans le monde de la musique qui est maintenant le monde du son, qui est un monde très très vaste et très très large de l'interprétation, en passant par les métiers de la technique, en passant par des métiers de création aussi, de création de son pour des jeux vidéo, pour je sais pas quoi. C'est tellement, il y a tellement de possibilités que effectivement ils vont à un moment donné mobiliser leurs apprentissages dans leur vie de structure. Et pardon, juste pour aller jusqu'au bout, ou même des élèves qui vont dire moi en fait j'ai découvert le concert, vous nous avez emmené une fois à l'opéra et c'était une grosse claque, j'ai adoré. Voilà, moi ça m'est arrivé d'emmener des élèves, des rockers à l'opéra à Vienne voir Madame Butterfly, de les voir pleurer à la mort de Madame Butterfly et qui disant mais en général tout le monde sait qu'elle meurt et de les voir 10 ans après me dire c'était un moment tellement bouleversant et depuis je suis retournée au concert parce que c'est aussi ça aussi, c'est la mission,
l'envie et...
C'est construire des citoyens, mais le citoyen de demain c'est quoi? C'est celui qui est capable d'écouter avec une oreille critique, qui est capable d'aller au concert, parce que faut pas oublier que bah l'industrie musicale, elle a besoin d'auditeurs, elle a besoin de gens pour aller au concert, et on parle souvent du vieillissement du public. Mais si les élèves n'ont pas été amenés, éduqués, quelque part, le monde de l'opéra ou du concert classique, il tourne sur lui-même.
Tu parles de ça parce qu'effectivement, moi, avec les cours de musique, c'était tellement dans une bulle d'éducation que perso, j'ai jamais fait le lien entre le cours de musique et la musique de jeux vidéo ou les musiques actuelles ou autre chose, tu vois.
Mais tu sais quoi, ça correspond exactement à la question que je voulais vous poser.
C'est bien organisé.
D'après ce qu'on vous écoute, on se dit que c'est incroyable, honnêtement.
Bah ouais, moi j'ai envie de faire de l'éducation.
Mais venez.
Et puis après, c'est ça. Ouais, j'ai envie de devenir prof en vous écoutant.
Non, mais venez en classe, mais ensuite, surtout.
Bah, ça serait bien, en vrai.
Mais ensuite, je me rappelle de mes propres cours, de comment ça se passait. Alors, peut-être que vous allez me dire, c'est que ça a évolué, je sais pas. Mais j'avais pas l'impression non plus que c'était le meilleur moyen de susciter des vocations, honnêtement. Ouais.
C'était assez rébarbatif.
Ça restait une discipline relativement scolaire, avec des apprentissages, pas forcément en lien avec les goûts des élèves, etc.
Il y avait pas trop de pont, en fait, avec ce qu'on pouvait apprécier.
Il y en avait un peu. Et puis, alors, la pratique instrumentale en elle-même, elle est extrêmement limitée, franchement. Comment expliquer ce décalage avec votre discours? Est-ce que j'ai vécu... Peut-être que c'est juste l'évolution, dites-moi.
Oui, oui, moi je pense que c'est l'évolution. Après, je suis plus jeune dans le métier que toi, mais...
Voilà, c'est fait.
J'attendais le bon moment. Les gens, ils écoutent plus, c'est trop lent.
Balle perdue, là, j'ai pas vu venir.
mais clairement, aujourd'hui, on n'a pas une injonction, mais quand tu vois les inspecteurs viennent nous voir et tout, ce qui est attendu, c'est au minimum 20 minutes à un peu plus sur une heure d'éducation musicale, de pratique. Donc, d'emblée, tu vois, on est vraiment dans la pratique. Quand je dis pratique, ça comprend le chant, ça comprend la percussion, ça comprend... Voilà, donc ça, c'est un minimum. Après, tu peux faire plus, mais... Donc, il y a ça qui est inclus dedans. Il y a l'écoute, on en a pas mal parlé. Et la création, et l'échange, le débat. Alors, tu disais, je vois pas en quoi ça participe au reste. Ben, effectivement, quand tu vas faire une écoute, tu vas susciter l'échange et le débat. Tu vas mettre en place un cadre dans lequel tes élèves, tu vas dire, attends, écoute, laisse-le finir jusqu'au bout. Oui. Ok, maintenant tu réponds. Et on les éduque à tout ça. Et on participe à ces compétences transversales dont parle Anne-Claire. Et donc, effectivement, quand on se retrouve, là, ces dernières semaines à préparer pour moi au collège l'oral du brevet, ben, on participe à l'effort commun. On leur fait passer, alors moi, tu vois, j'ai fait bosser au départ sur des exposés qui vont présenter sur des compositeurs de leur choix. Donc on est déjà sur des contenus musicaux, évidemment, mais on est sur un développement de pratiques et de techniques de l'oral. Et puis ensuite, on leur laisse aussi préparer leur vœu oral, tu vois. Mais on participe à cet effort commun. Et je sais pas si avant, on le faisait moins, mais en tout cas, là, nous, on s'imbrique vraiment dans les enseignements.
Tu sais, le souvenir que j'en ai, c'est...
C'était chiant.
Non, c'était même pas tant ça. Je le voyais déjà avant tout comme une discipline dans laquelle il était relativement facile de performer, entre guillemets, c'est-à-dire d'avoir de bonnes notes. Un peu plus accessible que d'autres disciplines plus strictes, entre guillemets. Que j'étais capable de relier à certains trucs que j'aimais en parallèle. Et de temps en temps, honnêtement, il y avait quelques espaces dans le cadre des cours où on pouvait amener un peu de perso, un peu de trucs qu'on aime, qu'on écoute, etc.
Ouais, mais ça, c'est parce que t'étais dans les années 2000. Imagine les années 90.
Ouais.
Oui, c'était compliqué.
Les années 2000. Ouais, si, c'était un peu, c'était le début des années 2000. Mais juste pour terminer, mais pour autant, je me sentais un peu détaché de tout ça. J'avais pas l'impression que ça jouait sur les ressorts du plaisir que j'ai à écouter des choses, etc., franchement.
Ouais, ce qui a changé peut-être sur un plan vraiment la technique et pédagogique, c'est que maintenant, et c'est demandé dans les programmes, les enseignants, ils sont amenés à beaucoup plus verbaliser les compétences qui vont être mobilisées. Donc les élèves, en fait, par exemple, au début d'un cours, l'enseignant va être amené à leur dire clairement, voilà, dans ce cours-là, dans cette séquence-là, vous allez apprendre ça, vous allez apprendre à faire ça, vous allez développer telle compétence. Ça, de toute façon, c'est quelque chose qui procède d'une évolution pédagogique générale, hein, pas forcément qu'en éducation musicale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, il faut quand même être honnête, l'explosion de tout un tas de choses, je pense par exemple à l'image, internet, le numérique, et ce sont toutes des technologies qui ont amené de toute façon à révolutionner complètement et les pratiques d'écoute, je dirais de n'importe qui, mais aussi clair. Des élèves, mais aussi des enseignants, et aussi les pratiques pédagogiques, parce qu'on ne peut plus ignorer ça. Alors la question
Avant, on le faisait. Oui. Ignoré, en fait, c'était ça.
Oui et non. Est-ce que c'était moins imprégnant? Faut voir maintenant. Nous, dans ce qu'on a évalué, on voit que tout le monde est équipé d'un vidéoprojecteur, d'un TBI, etc. Derrière cet équipement, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'image prend une grande importance. Donc forcément, l'éducation, le travail sur la musique de film, sur la musique de publicité, c'est tout des champs de d'études qui sont rendu possible et en tout cas qui se manifeste, nous on le voit dans les outils qui sont mobilisés au sein du cours.
Ben, en fait là moi quand je vous écoute, j'ai vraiment maintenant l'impression qu'effectivement les profs d'éducation musicale sont dans leur temps et comprennent ce qui se passe à l'extérieur, alors qu'effectivement à notre époque à nous c'était peut-être un peu plus un peu moins commun. Et tu vois, t'avais des profs qui refusaient de comprendre que il y avait des nouvelles musiques qui émergeaient.
On peut mettre un bémol à ça, c'est que peut-être que ça existe encore des profs réfractaires.
Oui, alors
mais ils vont pas tabasser la profession.
Non, alors, non
mais ils vont pas nous donner envie depuis tout à l'heure de reprendre
c'est
des
pas
cours.
Une campagne de recrutement ici. Ah bon
ni la profession, ni la profession ni les collègues. En fait, faut quand même toujours se méfier de la généralisation de l'expérience individuel. C'est-à-dire que vous comme nous, on a connu un seul professeur d'éducation musicale en cours. Quand on regarde les films, on parlait de la production cinématographique, il y a eu des beaux films sur le rôle de l'éducation musicale, il y a des belles histoires.
Non mais je parlais de la vie scolaire tout à l'heure, mais en fait dans la vie scolaire, il y a littéralement le projet de la classe qui est de faire de la musique. Donc au final le rôle du prof de musique aussi évolue.
C'est inverse.
Au film.
La famille Bélier, c'était une belle histoire d'une chorale, les choristes, c'est d'un autre temps. Mais en fait, c'est difficile de généraliser sur l'expérience individuelle. Et si on poussait le bouchon plus loin, on pourrait tous parler de notre prof de maths, on pourrait tous parler d'un prof d'histoire géo, d'un prof de français. Et au-delà de ça, la seule certitude et le seul dénominateur commun, c'est ce que demandent les programmes, ce qu'on évalue nous par exemple. Moi par exemple dans cette enquête là on voit que maintenant il y a moins de 20% de profs qui ont des tables et des chaises dans la salle de musique.
D'accord.
C'est-à-dire il y a plus de tables. Donc ça témoigne bien d'un changement de pratique. Ouais. Quand on n'a plus de tables, c'est quand même bien qu'on fait autre chose et qu'on fait essentiellement de la musique. Ça c'est les seules certitudes qu'on a. Maintenant nous vous dire ce que font les collègues, je sais bien mais c'est difficile parce qu'en fait colle à la peau de l'éducation musicale toujours le cliché véhiculé par l'expérience individuelle. Et quand on écoute nous, ça nous est arrivé plusieurs fois, même au niveau de la PMU, d'envoyer des courriers parce que on écoute France Inter. Il y a je sais pas quel invité qui vient. Oh, les profs de musique, c'est nul. La flûte avec ta ta ta. Bon, voilà. On se dit, on va refaire un courrier pour dire. C'est ça, image d'Épinal. C'est pas la réalité. Mais en fait, cette réalité, elle est toujours véhiculée par une expérience
perso.
Bonne ou mauvaise. Parfois, il y a le contraire. Parfois, on a on rencontre des gens. Moi, j'ai adoré. Et quelque part, ça c'est une spécificité qu'il n'y a pas dans les autres disciplines. Moi, j'entends jamais, je croise jamais de personnes pour me dire, moi le prof de français, je sais pas quoi.
Disais tout à l'heure quand même qu'il y avait une marge de manœuvre un peu plus importante avec votre discipline par rapport à d'autres quand même, vis-à-vis du programme, etc. Mmh. Et qu'il y a un esprit global qui en ressort, mais un petit peu moins d'éléments très précis.
Ça a changé, etc. Oui. Enfin, ça a vraiment évolué.
Donc potentiellement, il y a quand même, tu vois, l'expérience individuelle varie beaucoup plus. Peut-être,
mais la transmission. Elle est toujours de l'ordre de l'individu. C'est-à-dire rencontrer un prof passionné qui adore Flaubert et qui va vendre Madame Bovary de manière enthousiaste et
je vais prendre les choses d'une autre manière, peut-être Nico il peut nous répondre sur ce truc. C'est dans le domaine culturel, il y a certaines cultures, certaines pratiques qu'on considère plus légitimes que d'autres. De la part des institutions, notamment. On pourrait prendre, typiquement, ça évolue avec le temps, mais le rap. Est une musique qui est clivante encore aujourd'hui, à l'échelle de la société même, de manière générale. J'imagine qu'on le retrouve forcément parce qu'ils sont pas en dehors de la société chez les profs. Quoique peut-être, j'espère en tout cas, que les profs, en tant que musiciens, sont un peu plus ouverts sur l'idée qu'il va y avoir des pratiques musicales différentes, etc., et pas s'arrêter seulement aux clichés. Mais ça laisse quand même de la place à l'idée que bah dans notre classe on va pas forcément prendre en compte ces nouvelles musiques par exemple. J'imagine qu'il y a des profs qui vont avoir du mal avec
c'est
ça.
C'est des profs qui ont pris la tectonique au moment où ça a pété. Est-ce qu'ils le regrettent aujourd'hui?
Vas-y si tu veux répondre.
Ouais, merci.
Je peux le faire. Alors,
on pourrait dire la même chose des nouvelles technologies. Est-ce que la musique ça se fait avec un ordinateur? Il y a plein de musiciens que ça hérisse. Tu vois, de dire...
je vais faire une réponse comme ça. Je te laisse le temps de construire. Moi je vais répondre par les programmes. Par exemple, au lycée, on a des programmes qui sont peut-être un tout petit, enfin qui sont plus précis, parce qu'il y a des œuvres qui font partie d'un programme limitatif. Donc tous les ans, on a une liste d'œuvres que les élèves doivent étudier. Ça fait de nombreuses années. Hein, je vais remonter presque dans les années.
N'en dis pas trop sur les années, peut-être.
Parce que ça va pas être à mon avantage. une année, donc je crois 2010, voilà, il y avait Atomers Mother de Pink Floyd au programme. Quelques années plus tard, tout un groupement de chansons de Jimi Hendrix. Okay. L'année prochaine, et on en reparlera peut-être après, Jeff Mills, qui est un DJ, voilà.
C'est un des parrains de la techno.
Un des
c'est toujours des trucs
figures.
Un peu à l'ancienne quand même.
Jeff Mills un petit peu moins, mais alors Hendrix oui, Hendrix et Pink Floyd, tu vois, c'est pas la modernité incarnée
en fait,
non plus.
C'est des choses qui parlent pas forcément aux générations actuelles.
Moi je suis
d'accord pour
Pink
dire que c'est
Floyd,
de l'excellente musique,
si,
ça c'est
si,
pas.
Si,
le...
je pense que non, mais en fait pour les générations actuelles, les pratiques d'écoute des jeunes, elles sont multiples.
Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que si moi, dans les années 90, on parlait de Sylvie Vartan ou tu vois de l'époque des Yéyés. Alors qu'il y avait le Wu-Tang à côté, t'es là, je suis cool. Ouais. Toi, mais...
En fait, l'idée d'ailleurs, c'est pas de dire, parce qu'au contraire, je pense que c'est le rôle de l'école d'ouvrir à des cultures musicales.
Oui, bien sûr.
Donc, bien sûr qu'il faut.
En fait, c'est quoi
imposer,
la part
entre guillemets.
Voilà, c'est quoi la part de culture versus, enfin, de culture de d'histoire en fait, même récente de la musique, par rapport à être dans l'instant, parce que votre enseignement, en fait, je pense que c'est le seul dans le corps académique qui implique que vous, personnellement. Vous maintenez à jour par rapport à ce qui se fait, par rapport à ce qui avance, ce qui bouge, alors qu'effectivement, quand on est prof de SVT, bon, ben, la SVT, c'est la SVT.
Je pense que ça évolue, mais peut-être pas dans une telle mesure.
Il y aura des avancées majeures, etc. Ouais. Mais je veux dire, c'est pas des choses pour lesquelles le prof doit être au taquet à se dire, il y a ce truc-là qui pète en ce moment.
Ils ont pas besoin de suivre le billboard tous les mois. Est-ce que vous faites ça,
vous? Vous êtes beaucoup plus en prise avec la culture et le mouvement culturel et les avancées culturelles. Donc, moi, je trouve ça super déjà de base. Mais du coup, comment est-ce que.
Comme ça d'ailleurs.
Je sais pas. Est-ce qu'on a des profils de profs de musique qui ont 158 ans, tu vois, et qui refusent catégoriquement de voir que le monde évolue, que le monde avance et qui restent bloqués sur ce qui, pour eux, est la musique en disant que le reste n'existe pas, tu vois. Est-ce que c'est un travail difficile pour certains justement de se dire attends, j'aime pas le rap. Mais je peux pas passer à côté parce que c'est ce que les jeunes écoutent dans ma classe. Est-ce que je me force à l'écouter? Est-ce que tu vois comment vous gérez ce truc-là en fait, ce rapport à l'actualité, à la vie courante en fait?
Déjà, si on se rebase sur les programmes, tu vois, au moins une fois dans l'année, on doit faire un morceau qui a moins de 5 ans. Donc de base, t'es obligé d'aller te tenir un peu au courant, au moins une fois tous les 5 ans, tu vois, pour pas être pour pas être à la ramasse. Et essayer de prendre celui de l'année pour que ça dure 5 ans. Bon bref, donc ça déjà, tu peux faire cette stratégie-là. Mais après, encore une fois, c'est une histoire d'individualité. Quand t'es au contact et quand t'as choisi d'être au contact de jeunes de cet âge-là, c'est pas pour en être complètement désolidarisé. Et tu vois là, par exemple, ça fait 2 ans que dans mes écoutes, je mets de la K-pop, par exemple, parce que je sais qu'il y a une montée là-dessus. Et quand je vois le smile de mes élèves, quand je passe ça, et là, tout de suite, tu vois, je vois qui est fan de K-pop, si visuellement, je le voyais pas déjà. Ouais. du coup, tu vois, et ça permet d'engager la conversation et de, tu vois, d'aller plus loin. Ah, tu connais, nanana. Bon.
Et de remonter éventuellement, justement, à du Pink Floyd ou des choses comme ça.
Voilà.
Genre, regarde, Blackpink, ils ont repris.
C'est ça. Et pour te répondre sur ce point-là, par rapport au bac, il y a un problème que moi, j'interprète comme ça, mais qui est tout simple, c'est qu'on a quand même aussi besoin d'avoir un petit peu de recul sur la musique de l'instant, ne serait-ce que pour pouvoir la comprendre, l'analyser sous tous ses aspects, c'est-à-dire que la musique, on sait bien, enfin vous le savez encore mieux que nous parce que c'est un peu ce dont vous parlez tous les jours dans ce podcast, ça engage tout un tas de choses, c'est pas juste un style, c'est quelque chose de sociétal, et donc il y a ce besoin là. Moi j'avais travaillé à l'époque où il y avait Jazz et Orient, et sur Jazz et Orient il y avait Avishai Cohen, et l'album qu'on analysait, il était sorti 3 ans avant peut-être. Donc selon les thèmes qui sont choisis notamment pour le bac, effectivement il y a cette possibilité là. Et je termine avec l'oral du brevet et le grand oral. Mon fils, il vient de passer le bac là, il l'a eu, bravo mon fils.
Il a eu mention
assez bien. Mais il a eu 18 au grand oral. OK. D'accord. Au grand oral, son sujet sur lequel il est tombé, c'est la musique, parce qu'en fait, tu as des spécialités et tu dois présenter 2 sujets sur tes 2 spécialités, quoi. Donc lui, il est tombé sur son sujet musique. Son sujet musique, lui, il est fan de rap. Il est exclusivement sur l'hybridation dans le rap. Et donc, comme je viens d'expliquer, ça touche tout un tas de choses sociétales. Et il a eu 18 avec en face un prof de musique et un prof de je sais pas quoi. Donc tu vois, le prof de musique qui était en face, qui était jury, bah, il avait cette ouverture pour entendre parler de cette musique que possiblement il ne connaissait pas, puisque mon fils, visiblement, m'a dit, bah, j'ai pas l'impression, parce qu'il a cité certains artistes, qu'il n'y a pas eu forcément, tu vois, de. Donc, on a, je pense, cette ouverture-là en tant que musicien. Maintenant, encore une fois, on généralise, mais voilà, on doit bien trouver quelques profs qui sont un peu rétrogrades, mais.
Après, le choix d'une œuvre, toi, tu disais, est-ce qu'un prof, il se dit, ouais, ce morceau de rap, il marche en ce moment, il faut que je le fasse avec mes élèves. En fait, je crois que la question, elle se pose pas en ces termes. La question, c'est, quand on choisit une œuvre, que ce soit pour un support de cours, ou que ce soit au programme du bac, enfin, dans les programmes limitatifs, la question, c'est de savoir si une œuvre, elle est suffisamment riche pour pouvoir mobiliser d'autres œuvres périphériques qui vont venir l'éclairer, pour pouvoir faire référence à d'autres langages. C'est ce qui se passe dans Atomer's Mother, c'est ce qui se passe avec Jeff Mills. Ok, c'est peut-être pas je dirais le choix d'une œuvre, c'est pas sa date, c'est la richesse.
Est-ce que ça résonne,
la richesse, est-ce que ça peut effectivement mais faire résonner très très loin dans l'histoire de la musique, parce que l'objectif c'est vraiment ça, c'est de mettre en lien et de montrer que la musique elle a ses invariants en fait, ses universaux.
Ouais, bien sûr. Ouais, non, mais je j'entends, mais c'est vrai que comme c'est quelque chose qui est plus du domaine de l'émotionnel, du ressenti que de la pure connaissance académique, puisque vous le disiez, il n'y a plus de solfège, il n'y a plus ces choses-là, bah du coup, effectivement, chacun a un ressenti différent, peut avoir une sensibilité différente, un rapport différent à la musique, et je me dis, est-ce que au collège, les gamins, ils comprennent Pink Floyd, tu vois? Même moi, Pink Floyd, c'est quand j'ai eu...
Ah, au collège?
Enfin, j'ai commencé à écouter du Pink Floyd, tu vois?
Oui, parce que toi, t'étais fermé dans ta jeunesse.
parce que j'étais con, mais bien sûr, on est tous à cet âge-là.
Mais la question, elle se pose...
Moi, musicalement, non, j'étais...
Déjà. Oui, mais Salman, il est parfait, c'est Salman, il est incroyable. Mais puis surtout, t'es un 2008, toi, de quoi?
Si seulement.
En français, c'est la même question. Quand un prof de français choisit les lectures qu'il va faire avec les élèves, et la question, elle se pose dans les mêmes termes. Pourquoi plus cet auteur-là? Pourquoi plus ce roman?
Et puis,
à un moment donné, cette liberté pédagogique, elle engage une forme de responsabilité. C'est-à-dire que l'enseignant, il va aussi faire des choix qui, de toute façon, c'est le principe du choix, vont écarter tout un autre domaine musical, mais qui vont venir construire une culture. Alors, l'enseignant qui fait, je prends l'exemple inverse, l'enseignant qui fait que du rap, parce que le rap, ça marche et ça plaît aux élèves.
C'est embêtant aussi, c'est pas sa mission.
C'est embêtant aussi.
Bien sûr.
Donc en fait, quelque part, tout est dans l'équilibre et puis dans la...
Non, bien sûr.
La diversité.
Par contre, l'enseignant qui, comme porte d'entrée à chaque fois,
prend
se repose
actuel.
Sur le rap, pourquoi pas?
Et après, va sur la soul, va sur
comme
le jazz.
Comme porte d'entrée.
Moi, je pense que c'est l'équilibre. Moi, je le fais. Hein. Je pars d'un dernier truc. Quand je l'entends, je me dis
faut que je prenne ça.
Voilà, c'est pile dans ce que je veux faire sur je sais pas quoi. Mais après, c'est pas systématiquement le rap, parce que ça va dépendre. Enfin, tu vois, nous, quand on fait nos cours, ce qu'on essaye
c'est
de faire.
C'est qu'un exemple parce qu'il est un peu plus clivant.
Oui, bien sûr.
Il y a d'autres genres.
Mais c'est surtout métal, nous de trouver comment en fait ouvrir nos élèves à tout ça. Et donc, effectivement, si notre point d'accroche, on en parlait en off, c'est celui-là. Tant mieux. Mais à nous aussi des fois de partir d'une œuvre de Mozart et de dire ça y est, on l'aura calé une fois. Toi, t'avais juste dit la 40e, bon. Et de comment les amener, tu vois, à découvrir autre chose. On n'est pas toujours obligé, et je pense aussi que la variété, c'est bien.
La surprise, l'inattendu pour un élève. Voilà, si le cours démarre toujours par une œuvre de rap pour ensuite aller ailleurs quelque part, c'est pas mieux non plus. L'idée, c'est aussi de bousculer parce que la pédagogie, c'est ça aussi, c'est l'inattendu, c'est surprendre,
oui, c'est
créer
c'est élargir
de l'envie.
Les horizons des ouais. élèves, donc ouais. ne pas leur donner que ce qu'ils connaissent déjà en
mais
fait.
C'est ça. Hein. Mais il y a aussi le fait d'aller moi ce que j'aime beaucoup faire, c'est ça, je leur présente une notion, tu vois, on a parlé de l'ostinato tout à l'heure. Bah, je vais leur dire maintenant, vous allez aller chercher vous dans votre playlist à vous deux œuvres dans lesquelles vous entendez de ostinato et vous allez les faire écouter à la classe. Et donc là, on va pouvoir écouter ce qu'ils écoutent. Moi, ça me permet de découvrir des choses. Eux, ils sont contents parce qu'ils vont pouvoir faire écouter leur musique. Il y a un petit filtre quand même, tu vois, j'essaye d'écouter avant pour être sûr qu'il n'y ait pas de grosses insultes ou des choses autres qui arrivent.
Écoute, on fuck le 17.
voilà, c'est ça. Mais du coup, c'est aussi les inviter, tu vois, à leur dire, voilà, je suis open, justement, et ça m'intéresse de savoir ce que vous écoutez. Et quelque part aussi de, tu vois, de réinvestir ce que moi je leur apprends, qu'ils soient capables en fait de l'identifier dans leur musique et d'analyser leur musique, exactement, c'est, cool, c'est ça.
Il y a un autre élément, tu veux dire quelque chose, pardon?
J'allais enchaîner sur une autre,
vas-y.
Une autre compétence dont on n'a pas assez parlé, c'est la création, construire des projets de création, et au final on voit que cette idée de style, parce que là on se focalise beaucoup sur le style, etc., mais derrière ça c'est que fait l'élève. Et je dirais que ce soit du rap, que ce soit du rock, que ce soit de la musique électronique, de la musique répétitive, en fait l'idée c'est de voir aussi que ces compétences là notamment le développement de la création, de la créativité, c'est des compétences qui vont pouvoir mobiliser plein de langages musicaux différents, et pour aller dans cette idée là et cette idée aussi d'être capable d'explorer, par exemple au lycée, ça fait partie des grandes évolutions, un élève qui est en spécialité musique au lycée, quand il passe le bac, son épreuve d'oral, il présente une création collective qu'il a donc faite en groupe pendant l'année. Donc ça peut être une création, ça peut être dans un style déterminé, ça peut être aussi une création qui va aller explorer plusieurs styles, plusieurs langages musicaux.
Et comment tu notes ça?
L'évaluation.
Est-ce qu'il y a des mauvaises créations? Est-ce qu'il y a des trucs où vraiment vous écoutez, vous faites waouh, c'est pas ouf?
Et on peut même étendre, c'est vrai que c'est intéressant, l'évaluation de
l'évaluation,
manière générale dans votre enseignement.
C'est une super question, l'évaluation, parce que c'est pareil, ça fait partie des choses qu'on a vu évoluer, ouais. Notamment l'auto-évaluation. C'est quelque chose qui a apparu il y a quelques années et qui est, monté en flèche, où maintenant, je crois qu'il y a que 10% des enseignants qui disent qu'ils ne font jamais d'auto-évaluation. Donc c'est devenu une pratique très très courante, l'auto-évaluation ou la co-évaluation. Alors après, sur une création,
concrètement, c'est quoi l'auto-évaluation ou la
l'auto-évaluation,
co-évaluation?
On donne la liste de compétences aux élèves, on dit voilà, ton projet musical, tu dois avoir développé cette compétence là, ou vous devez avoir fait ça, ou il doit y avoir tel élément, et puis l'élève écoute ce qu'il a fait, soit il s'est enregistré, soit il l'écoute pendant qu'il fait, voilà, et puis il coche, il dit bah oui, ça je l'ai bien fait, ou ça non, je peux encore m'améliorer. Ça peut être aussi sur des compétences de travaux de groupe, je suis capable d'écouter les autres quand ils donnent leur avis. Voilà, et donc soit l'élève s'évalue lui-même, ou alors il y a une co-évaluation, par exemple le groupe, ou bien toute la classe écoute la création et dit ah bah eux ils ont bien fait, vous aviez demandé à ce qu'il y ait un ostinato par exemple,
ou des contrastes,
ou voilà, et donc
il y a quand même une roadmap avec des trucs à cocher dans ce qu'on fait, c'est pas de la pure créa.
La pure créa, est-ce qu'elle existe vraiment, même là?
Non, mais je veux dire sans
Il y a toujours des contraintes où on va poser les contraintes, c'est des éléments de langage, ou bien c'est un thème, ou bien c'est une grille d'accord, ou bien
et donc ça ils le savent ambiance. Au début de l'année sur leur projet, ils disent
au début du projet, voilà,
à la fin il faut que ça fasse, que ça coche ça
voilà. Au collège aussi on retrouve ces productions de la part des élèves qu'on évalue ensuite,
tout à fait, sur des formats un peu moins ambitieux que pour le bac évidemment. temps. Mais effectivement, on s'affaire à ce que dans chaque séquence, dans chaque chapitre, on fasse de la création. Alors ça peut être des fois tout mini, c'est-à-dire on va juste refaire le morceau, le chant qu'on a fait, mais vous allez par groupe devoir choisir les nuances ou les tempos que vous allez mettre sur chacun des couplets, refrains. Et après, ça peut être un peu plus ambitieux, où effectivement, voilà, moi en troisième, comme je disais tout à l'heure, l'objectif c'est qu'ils arrivent à créer un combo en entier avec, par exemple, une des suites d'accords qu'on aura vues entre la quatrième et la troisième. Donc dedans, t'as les quatre accords magiques, tu as, voilà, et il faut qu'il y ait une basse, il faut qu'il y ait une batterie, il faut qu'il y ait un accompagnement. Alors là, tu vois, on aura vu arpège, on aura vu accord plaqué, ouais, tout ça. Et donc effectivement, il y a soit ça, et hop, on coche, et on doit respecter une structure également.
J'aurais adoré apprendre la musique comme ça.
Et ce qui est intéressant, c'est parce que on a dit tout à l'heure que le solfège avait été plus mis de côté. Pour autant, la théorie musicale, parfois, ça peut être un atout aussi. Je pense que quand on est musicien, on le voit. D'ailleurs, quand on a des lacunes en théorie musicale, on se dit, ah, si je maîtrisais quelques trucs, ça pourrait m'aider. Je
serais meilleur.
Est-ce qu'on voit toujours comment est constitué un accord, quelles sont les gammes, etc. On le voit quand même ça ou pas du tout? Est-ce que vous le déplorez? Alors, parce que ça peut être intéressant aussi si c'est bien fait. Je sais pas.
En collège, on est beaucoup plus sur le ressenti. C'est-à-dire que s'ils sont capables d'entendre la différence entre un accord majeur et un accord mineur, je suis content. Okay. Qu'ils sachent définir ce que c'est un accord, c'est-à-dire des notes jouées en simultané, on est bien. Après, qu'ils sachent que dedans c'est une tonique tierce quinte, ça non. Voilà, je vais pas jusque là. Après, au lycée, t'expliquera. Mais du coup, on est plus vraiment sur, quand, encore une fois, dans l'immédiateté. Tu vois, l'accord majeur mineur, tu sens qu'il y a un mood différent. C'est possible de
ressentir.
Voilà, exactement. Ouais. Voilà.
Ouais. En fait, ce qui est important, c'est de savoir de quoi l'élève a besoin pour conduire son projet. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il a besoin de savoir ce que c'est qu'un accord majeur, un accord mineur, parce que on leur aura dit, votre morceau aura une première partie mineure parce qu'on a déterminé qu'on voulait telle couleur, telle ambiance, et la deuxième partie sera majeure, alors l'élève va le mobiliser et va utiliser la question de la théorie. C'est la théorie pour quoi faire? Apprendre la théorie ou apprendre le solfège
pour s'en servir,
comme objectif en soi, ça c'est pas une fin en soi. Maintenant, apprendre des notions techniques, parfois théoriques, parce que on en a besoin,
on les mobilise après,
pour les mobiliser dans un projet de création, là il y a aucun souci.
Et ça part toujours de là, en fait. On part de cette finalité où on veut les amener, et on leur donne les moyens pour y parvenir,
et au final il y a plus de frein. Parce que c'est comme apprendre à lire. L'enfant qui doit apprendre à lire, s'il sait pourquoi il apprend à lire, s'il a un objectif. Si l'objectif c'est de lui dire, il faut que t'apprennes à lire parce que c'est important,
c'est
de savoir
ça.
Lire.
Ouais.
Et c'est comme ça. Il y a pas cette motivation et il y aura pas ce
Alors
goût de la
si
lecture.
C'est pour lire des mangas, par
voilà,
exemple.
C'est ça. Ou parce que il a envie de faire une recette de cuisine tout seul et qu'il a besoin de savoir la lire, c'est différent. Bah en musique c'est pareil. On va mobiliser de la théorie, on va mobiliser des notions qu'on appelle peut-être de solfège, mais apprendre à lire la clé de sol pour jouer de la guitare, ça n'a pas de sens.
Il y a un élément un peu dans la continuité.
Il y a des barres.
Non,
mais on est d'accord que la tablature, c'est génial. C'était juste pour faire...
juste pour désapprouver ce que je dis.
Dans la continuité de notre discussion, il y a ce rapport quand même au numérique. L'industrie musicale, les musiciens, absolument tout le monde, je parle là des professionnels, tout le monde s'est mis au numérique. C'est partout, avec des approches hybrides parfois, etc. Mais c'est un phénomène qu'on ne peut pas ignorer quand on s'intéresse à la musique. J'imagine que ça se retrouve dans l'enseignement de la musique à l'école. Il y a une difficulté, c'est que ça demande des appareils, du matériel, des choses comme ça. Comment c'est vécu? Est-ce que déjà ça a de la place effectivement dans l'enseignement de l'éducation musicale à l'école? Et quelles sont les ressources mises à votre disposition pour pouvoir concrètement adopter ces pratiques?
Déjà, c'est écrit dans les programmes, pour commencer. Donc, il y a vraiment aussi cette injonction-là d'utiliser le numérique. Ça peut commencer déjà côté prof, comme tu l'as dit tout à l'heure. Maintenant, on est tous équipés quasiment de vidéoprojecteurs, à minima, d'un ordinateur, d'un système de diffusion, de son, de qualité, dans la majorité des cas. Et ensuite, l'idée, c'est aussi de faire pratiquer les élèves. Et là, effectivement, selon les établissements, selon les contextes, on a des moyens qui sont différents. Et moi, je suis dans le privé, donc c'est encore quelque chose de différent. Donc, dans mon cas, je vais répondre pour moi et tu répondras toi pour le public. Moi, ça marche toujours par projet, c'est-à-dire que comme on parlait du rayonnement tout à l'heure, j'ai dit, moi, je ramène mon iPad. Voilà ce que je vais faire avec les élèves. Est-ce que vous êtes OK? Oui, oui, allez-y. Je montre ce qu'ils font. Et on me dit, ah ouais, quand même. Donc, est-ce que ce serait possible d'en avoir 5? Et puis, l'année d'après, 5 de plus. Et puis, au final, j'ai 16 iPads dans ma classe.
Donc, c'est pas un budget qui est fixé par l'éducation nationale, mais là, c'est l'établissement, en l'occurrence. Mais parce que c'est dans le privé?
Ouais, ouais. Après, on a un budget, si tu veux, fixe qui est attribué chaque année. Mais c'est pas un budget, moi, qui me permettait d'investir sur du matériel aussi coûteux. Donc voilà, moi j'ai fonctionné comme ça en projet et ça m'a permis de m'équiper et puis après de prendre des claviers MIDI, de prendre des contrôleurs MIDI, etc. Et des instruments aussi réels, bien entendu, mais comme on focus sur le numérique.
Ça s'est aussi démocratisé, c'est-à-dire que là tu le dis, avec un iPad qui coûte pas non plus des fortunes, tu peux faire des gros trucs.
Complètement.
Par rapport à une époque où il fallait la machine qui était en franc à 10 000 balles, tu vois, c'est le sampleur, le machin, le truc, où, oui. Là je comprenais même limite qu'on n'en trouve pas en salle de classe. Tu vois, pour moi, ça ne faisait aucun sens d'avoir des machines très coûteuses pour finalement être sous-utilisées. Parce que concrètement, les élèves.
Qu'est-ce qu'on en fait?
Ouais, voilà. Tu fais quoi avec ça?
La question de l'équipement pour toi, Anne-Claire?
La question de l'équipement, c'est la question des collectivités territoriales, puisque les collèges reçoivent des dotations des conseils départementaux, les lycées des conseils régionaux. Donc forcément, ça dépend de chaque territoire. Mais en même temps, ce que je retiens dans ce que disait Nicolas, il y a une réalité qui est partagée par tous, c'est la réalité du projet, c'est-à-dire que un équipement sans projet, ça a pas de sens. Donc bien sûr, les enseignants, ils doivent être amenés à construire des projets et à communiquer sur ces projets-là pour pouvoir bénéficier des équipements. Après, il y a des volontés. Moi, je peux prendre un exemple dans le Grand Est, par exemple. La région Grand Est, elle équipe d'un ordinateur tous les élèves à l'entrée en seconde.
Okay.
Donc, y a des volontés d'équipement de la part des régions, de la part des conseils départementaux. Et puis après, il y a tout l'équipement individuel de l'élève qu'on peut mobiliser. Ils ont maintenant presque tous un téléphone portable, ce qui est déjà largement suffisant, puisque nous, on travaille beaucoup en groupe, en cours d'éducation musicale. Donc, parfois, un téléphone portable pour le groupe, ça suffit. On a des outils dans les téléphones portables qui sont super performants par rapport à ce qu'on a besoin de faire avec eux.
Vous avez le droit d'utiliser les outils personnels des élèves en cours ?
Alors ça, c'est réglementé par le CA. Après, l'enseignant, il peut tout à fait faire mentionner au CA, faire rentrer ça dans une forme de réglementation interne à l'établissement scolaire. Ça fait partie de la liberté de l'établissement.
Okay. Et le fait que ce soit en fait très politique, que ce soit les collectivités, etc., qui décident de débloquer des budgets, en gros, si je comprends bien. Est-ce que ça fait aussi que y a des établissements de pauvres, entre guillemets, où là on n'aura pas l'équipement pour faire de la musique comme il se doit?
Non, je pense pas, parce que il y a de toute façon une volonté et une injonction à un équipement de base. Après, l'équipement, nous, ce qu'on voit dans l'enquête qu'on a conduite, c'est que plus un enseignant reste dans un établissement et mieux il est équipé, ce qui est assez logique, puisque forcément d'année en année on peut enrichir l'instrumentarium, qu'il soit numérique d'ailleurs ou instrument acoustique, voilà. Et puis les dotations, comme je le disais tout à l'heure, elles se font aussi en fonction du projet de l'enseignant. Après, forcément, il y aura toujours des cas où le collège ou le lycée est moins équipé, moins bien. Mais vous dire quelles sont les raisons qui font que l'équipement est moins riche à tel endroit ou à tel endroit.
Il
n'y
a pas un plan qui dit là-bas on donne rien.
Non.
Ça me rassure.
Non, et puis je crois dans les collectivités territoriales. Bon, moi je connais bien la région Grand Est. Dans les collectivités territoriales, il y a une vraie volonté d'équiper. Souvent d'ailleurs en priorité les établissements plutôt ruraux, les établissements, on parlait de REP+, voilà, et il y a une vraie volonté de mettre des moyens là où il y en a besoin.
Et alors moi j'ai une question, on sait qu'il y a une crise de vocation dans l'éducation nationale, qu'on a beaucoup de mal à recruter des profs de manière générale, comment ça se passe pour la musique? Est-ce que les profs de musique, il y a des classes qui n'en ont pas, il y a des établissements qui ne peuvent pas avoir de cours de musique parce qu'il n'y a aucun prof dispo. Est-ce que vous le ressentez aussi sur votre votre discipline ou est-ce que c'est un truc un petit peu à part et finalement la musique on se plaint pas trop parce que ça va?
Sur le recrutement, c'est moins sensible sur la musique que sur d'autres disciplines qui sont clairement déficitaires, ça c'est vrai. Maintenant, il y a un fléchissement. On suit évidemment l'éducation musicale suit la courbe
parce que moins de gens
cette crise de vocation, c'est ça. Cette crise de vocation, elle est générale dans l'éducation nationale. Elle touche pas que certaines disciplines, mais c'est moins sensible.
En proportion, voilà, vous êtes moins impacté.
En proportion, on est moins impacté. Ouais, okay.
Vous avez une idée, tous les deux, du nombre de postes à pourvoir, ou enfin de gens qui manquent actuellement en France? On manque de profs de musique? Combien?
Alors, je te le sors à pistol des nasses, comme on dit chez moi. Il y a 76 reçus pour, je crois, 129 postes ouverts. Si je dis pas 139 postes ouverts. Donc là, on a, c'est pas la moitié,
presque
tu vois.
La moitié, quand même.
Un peu plus que la moitié.
Ouais.
Mais du coup, là, tu vois, on est quand même, je crois, au-dessus dans les chiffres que sur les autres matières.
Ah ouais?
Ouais.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire
non, c'est-à-dire que nous on a pris plus de profs que dans d'autres matières.
Ah oui, d'accord. Voilà. Ok. Ouais.
Ça veut dire que la discipline sera moins déficitaire
c'est
que
ça.
D'autres disciplines, ouais.
Non, parce que on parle là d'une certaine manière de l'attractivité de votre métier. J'imagine que le salaire est un élément à prendre en compte. Question idiote, vous êtes payé pareil que les autres profs?
Oui.
Bah, sauf quand on est agrégé.
Oui. D'ailleurs, peut-être que vous pouvez nous dire rapidement qu'APS agrège la différence et ce que ça
entre les deux.
Ouais. Mais payé pareil en tout cas, oui, on est d'accord.
Tous les profs sont payés pareil. Voilà. C'est des indices dans toute la fonction publique. Hein, de toute façon, c'est des salaires qui sont sur des grilles d'indices. Donc.
Et oui, par rapport CAPES à Greg.
Bah après CAPES, c'est concrètement c'est 18 heures face à élève minimum et à Greg 15 heures comme je disais tout à l'heure.
Parce que en gros c'est un concours.
Ouais.
Le CAPES et la Greg. Et la Greg est censée être un concours un peu plus prestigieux, un peu plus difficile aussi à obtenir, c'est ça?
Pas un peu plus.
Ouais. Beaucoup plus.
Mais, tu vois mes cheveux? Je les ai perdus en ayant la Greg.
Voilà. Mais ça valait le coup.
C'était un choix.
Ça valait le coup. Ça valait le coup. Voilà, je regrette pas. Ça me va mieux en plus.
Oui, c'est un concours qui est plus difficile. C'est dans l'organisation de l'institution scolaire. C'est aussi des professeurs qui ont vocation à enseigner plutôt en lycée. Alors c'est moins vrai en musique parce qu'il y a très peu de postes en lycée, mais il y a en proportion autant d'agrégés que presque que les autres disciplines, quoi.
Mm-hmm.
Vous savez quoi? Parce que l'heure tourne, et notamment Nico, il va falloir que tu retournes à Toulouse.
C'est ça.
C'est l'accent du sud-ouest.
Très mauvais, t'as vu? Mais je sais pas, j'aime bien faire ça.
Toulouse. Et c'est plus guttural.
C'est plus guttural.
Oui.
Comment on dit Toulouse?
Ben, moi, j'ai dit Toulouse, mais je le perds.
Ok,
l'accent,
bah Toulouse,
je
alors.
C'est terrible. Non, il faudrait dire Toulouse. Voilà.
Toulouse, c'est très bien.
Mais ça se perd.
Une dernière petite partie, brève, mais il faut qu'on parle un peu des élèves quand même.
Il faut. Mmh.
Ah. Toutes les statistiques sur les pratiques des Français, notamment les pratiques culturelles, à ma connaissance, démontrent qu'on n'a jamais écouté autant de musique qu'aujourd'hui.
Mmh.
C'est constant, vraiment, on le voit par décennies, c'est impressionnant. Et alors si on compare il y a 50 ans en arrière, on écoute tellement plus de musique. Est-ce que vous ressentez au fil du temps un intérêt plus important pour votre discipline de la part des élèves? Parce que la musique est plus présente, ou il y a encore quand même un décalage?
Moi, j'ai envie de dire qu'il y a eu une... Quand The Voice a démarré, et toutes ces téléréalités, il y a eu vraiment un regain pour le chant et pour la voix. Okay. Et ça, c'était vraiment super. Maintenant, je trouve qu'il tend pas à disparaître, tu vois, mais ça, c'est un peu retombé. Néanmoins, on surfe encore aujourd'hui là-dessus, et on a, enfin, moi, en tout cas, dans mon public, j'ai quand même des élèves qui sont pas contre le chant, tu vois. Il y a eu une époque quand j'ai démarré, pour les faire chanter, c'était compliqué. Ils voulaient pas. Là, maintenant, je trouve que c'est un peu plus rentré dans les mœurs.
Après, merci l'autotune.
C'est vrai. Mais après, il y a ce que tu disais. Oui, on écoute énormément plus de musique, et j'ai envie de dire, on en écoute aussi beaucoup moins en termes de
diversité.
Ouais, exactement. Mmh. Et donc oui, il y a ce côté-là. Et après, il y a quand même, moi encore une fois, c'est ce que je vois dans ma classe. Le côté, tu vois, qui tu disais tout à l'heure, il y a pas de table, etc. Comment on les sort en fait du contexte scolaire habituel, frontal, autobus? Il y a quelque chose de différent qui fait que ça rompt un peu le, tu vois,
dans la relation.
Oui, tout à fait. Et ce qui fait que le cours de musique et du coup la musique, parce que c'est finalement ce qu'on amène, on le vit un peu différemment. Donc après, il y a une histoire de culture, on le disait tout à l'heure, quand t'es depuis longtemps dans l'établissement, on te connaît, on sait, voilà. Donc moi, j'ai envie de dire que de ce côté-là, franchement, ça évolue très positivement. Et comme la musique est partout, et comme tout le monde écoute de la musique, il n'y a plus ce phénomène où moi, je n'entends plus aujourd'hui, j'aime pas la musique.
Ouais.
Tu vois,
toi qui as un peu plus d'expérience d'ailleurs,
beaucoup.
Je pense que
t'as observé une évolution avec le temps.
Ouais, une évolution aussi sur la diversité en fait, la diversité de ce qu'est la musique, la diversité de ce qu'est le monde sonore qui nous entoure. C'est-à-dire que, comme le disait Nico, l'élève qui disait non mais moi j'aime pas la musique, mais ça arrive plus tellement parce que comme on en parlait tout à l'heure, il joue aux jeux vidéo, donc forcément la musique joue un rôle essentiel. Il regarde, je sais pas moi, il est sur YouTube, la musique joue un rôle essentiel, il va au ciné, c'est pareil. Donc en fait, la musique, elle est tellement omniprésente que de toute façon, il y a toujours un fil à tirer, il y a toujours une manière d'amener n'importe quel élève vers le son. Ouais.
Le geek en moi a envie de savoir, Nico, tu peux nous donner un exemple de travail avec les élèves qui implique, bah, je sais pas, des outils qu'en tant que musicien d'aujourd'hui on utilise beaucoup, des plugins, j'en sais rien, un séquenceur, un contrôleur MIDI. Tu peux nous donner un exemple de travail que tu fais au collège, tu vois, pour qu'on se dise, ah oui, on fait ça au collège, tu vois.
Ouais. Ben, sixième, Launchpad. Donc, c'est okay. Dérivé de Ableton, et en gros bah ils doivent créer un morceau, tu vois, avec une structure ABACA dans lesquelles ils vont devoir mettre de la pulsation sur le A, sur le B. Il doit y avoir la pulsation mais on l'entend pas, donc t'enlèves le beat, ce qui est très drôle en sixième, le beat d'ailleurs, et le C c'est non pulsé, donc là ils vont utiliser que des samples, et donc ils vont découvrir aussi la notion de sample,
sur
tu
les
vois
pads directement.
Et ils appuient sur les pads directement parce que tu sais bien que voilà, chaque pad correspond à un son, donc ils découvrent tout ça, le terme de boucle, le terme de sampler, le terme de sample, etc. Et du coup, réunion parents prof en octobre, je montre aux parents, bah voilà ce qu'a fait votre gamin, quoi. Et mon fils c'est David Guetta en fait. Totalement, totalement. Voilà, du coup, mettez-moi du budget avec l'association des parents, pour acheter des iPads. Voilà, j'exagère
un peu.
J'ai
besoin d'iPad.
Voilà, c'est ça. Mais du coup, voilà un petit peu ce qu'on fait. Et c'est vrai que tout de suite, tu vois, dès la sixième, là, tu leur fais les étoiles dans les yeux. Ouais. Et toi aussi, t'es content qu'ils se disent, ah, mais en fait, la musique, en fait, je peux faire de la musique, quoi. Tu leur envoies le message que tout de suite ils sont capables et que c'est pas, enfin, ça nécessite pas forcément des années de solfège pour démarrer.
Même en dehors des nouvelles technologies, est-ce que tu peux nous donner un exemple d'un projet musical que t'as mené avec des élèves dont t'es particulièrement fier ou qui t'a marqué?
Ah ouais, c'est surtout eux qui doivent être fiers. Ouais. Un projet de création en terminale, en fait, c'est des créations d'autoportraits en groupe. Donc en fait, les élèves, on travaille sur Schumann parce que c'était au programme du bac, et Schumann, en fait, il a écrit dans son carnaval certains thèmes qui donnent des lettres, hein, le A égale la, etc. Et donc, il met des petites signatures codées, etc. Et donc, partant de ça, les élèves déduisent leur prénom. Déduisent des notes de leur prénom, ce qui leur donne un petit thème, et puis ensuite ils créent un morceau. J'ai des élèves qui ont créé leur création, qui sont présentés au bac. Donc en fait, c'est l'idée de l'autoportrait, mais ils sont en groupe, donc il faut réussir aussi à amener tout le groupe à comprendre quelle ambiance ils veulent donner et tout, et voilà. Et c'est des créations qui durent presque une dizaine de minutes la plupart, avec des sortes de focus. Non, parce qu'après on apprend. Parce qu'après on apprend à développer apprend à développer un thème. Je veux dire, la cinquième de Beethoven, il y a quand même qu'une cellule sur quatre notes, et pourtant ça fait toute une symphonie. Donc en fait, on apprend à développer. Ça peut être sur une sorte de musique minimaliste répétitive, un peu à la Steve Reich. Ça peut être des accords style bossa parce qu'ils harmonisent leur prénom, et puis après ça donne la grille d'accord. Et voilà, et en fait c'est pas difficile, de la création. En fait, l'idée c'est de ne pas se fermer de porte, mais surtout aussi d'avoir des références, c'est d'être capable de se dire, je vais partir dans ce style là je vais reprendre l'idée de cette basse là elle me plaît, je vais l'adapter, etc. Voilà,
ça donne envie, hein. Et tu sais quoi, pour terminer, parce que il faut quand même équilibrer aussi tout ça. J'imagine qu'il y a des améliorations à apporter aussi. Est-ce que chacun, vous pouvez nous donner un truc que vous pensez qui est encore amélioré dans votre métier?
Imaginez, je suis pas PNJ.
Voilà, okay. Ouais, une envie, un besoin. Qu'est-ce qu'on peut faire mieux là aujourd'hui?
Moi, je dirais plus d'heures. clairement. Une heure en collège, c'est un sacrifice, quoi. Ouais. Puis le coup, je sais pas, ouais, t'en as un qui a mal au ventre ou qui a un prof qui passe pour faire une com, tu perds 5-10 minutes. Mmh. Moi, c'est un crève-cœur de pas pouvoir aller plus loin. Et on parle, tu vois, de tous ces projets. C'est une course contre la montre. Chaque cours, c'est une course contre la montre. Donc, je sais bien qu'il y en a qui vont dire, 15h, 18h, c'est rien. Mais quand tu sors de là, mais t'es dans un état, enfin, moi, je saute partout. C'est, voilà, c'est vraiment du running. Tu vois les les exercices. Ah, bon, j'ai fait juste mes heures de cours. Voilà. Et en fait, et du coup, bon, moi, je suis passionné et du coup, je transmets cette passion à mes élèves et je vois bien que, ah, ça sonne, tu vois, le coup, ouais, ah, ça sonne déjà. Là, tu dis,
c'est gagné. C'est
down. Voilà. Mais du coup, t'es un peu frustré. Ouais. Donc, effectivement, si on pouvait avoir plus d'heures, ça serait quand même super.
Et tu penses même qu'elle devrait être obligatoire, 16 heures supplémentaires?
Ah, oui, bien sûr. Oui, bah, déjà qu'il y ait au moins 2 heures par semaine minimum de musique, moi, je pense.
Ouais, j'ai plus d'heures. Je te rejoins, Nico. Et puis moi, je trouve au lycée plus de possibilités pour tous les élèves de toute la France de poursuivre au lycée, parce que maintenant, voilà, il y a de moins en moins de lycées qui ont une option musique. Hein, avec la réforme, en fait, les options, elles ont perdu un petit peu leur rôle au sein du nouveau bac. Et donc il y a beaucoup de lycées qui ont perdu leur option. Il y a assez peu de lycées qui ont une spécialité musique, et au final, bah, ça crée quand même une forme d'inégalité puisque n'importe où sur le territoire, n'importe quel élève ne peut pas forcément poursuivre la musique au lycée, alors que ce serait juste légitime. Ouais. L'élève qui a envie de poursuivre, qui a aimé faire des langues et qui a envie de poursuivre des langues, bah, il peut trouver cette spécialité n'importe où près de chez lui, alors que c'est pas vrai pour la musique. Et puis c'est au final une spécialité qui s'adresse à tout le monde, donc il n'y a pas de raison.
On a un chiffre sur l'ensemble des lycées, combien propose une spécialité musique?
Alors ouais, alors je pensais pas que la question serait posée. En gros,
vous voulez même les élèves, du côté des élèves, quel pourcentage d'élèves prennent la musique au lycée?
Ah non, c'est infime. En gros, ça c'est presque un établissement par département, mais c'est pas le cas partout. Ouais. Par exemple, la région, l'Académie de Limoges, je crois qu'il y a une seule spécialité musique pour toute l'académie.
Après Limoges.
L'académie
de
L'académie de Besançon, il y a une seule spécialité musique. Oui, mais en fait, on dit il y a des académies plus ou moins rurales. Ouais. Mais par exemple, Besançon, le fait de dire à un élève qui viendrait, je sais pas, de Haute-Saône, bah si tu veux faire de la musique, bah il faut que tu partes à 2 heures de chez toi.
Est-ce à 15 ans.
Voilà, on voit que il y a une forme de rupture d'égalité, quoi. Mm-hmm.
Et des effectifs qui sont pleins. À Toulouse, là, tu peux plus rentrer, par exemple.
Ouais, alors certains lycées, des effectifs pleins. D'autres lycées, c'est plus compliqué parce que, bah, après, c'est des histoires techniques de carte scolaire. Ouais. C'est-à-dire que la musique, comme toutes les options en seconde, n'est pas dérogatoire. Donc, par exemple, un élève qui voudrait aller dans tel lycée pour faire de la musique, il n'est pas prioritaire pour entrer dans ce lycée-là. Donc, parfois, des vœux d'orientation qui ne sont pas satisfaits pour ces raisons-là. Ouais.
Contrairement à d'autres disciplines.
Ah bah oui.
Comme apprendre le chinois, par exemple, c'est dérogatoire, ça, de vouloir apprendre le chinois.
Non, parce que c'est une option aussi. Non, d'accord, en fait, la règle est la même pour tout le monde. D'accord. Les options ne sont pas dérogatoires, normalement. Ouais.
Les amis, c'était passionnant. Alors, le sujet, on n'a fait que l'effleurer, j'imagine. Mais j'espère qu'on vient proposer. On a proposé une belle base pour comprendre un peu comment ça se passe. Il faut vraiment qu'on le fasse en mode ultra express pour Nico. Les recos, Daz, est-ce que tu sais ce que tu as envie de faire écouter ou pas?
Bien sûr.
Allez, vas-y, dis-moi
Tyler,
vite,
the
on enchaîne.
Creator, un morceau qui s'appelle Dogtooth, qui est sorti cette année.
Eh bien,
c'est très cool.
C'est super, Dogtooth, Tyler, the Creator. On s'écoute un extrait. She could rob my face, I don't want nothing in return. I'm about to count who she fucking never my concern. I'm trying to buy my neighbor house.
C'est du piano. Rob my face, I don't want nothing in return. Except for some her time and all her love, that's my concern. I'm trying to buy my neighbor house and turn it to. C'est sur le dernier album, il vient d'en sortir,
ouais,
c'est ça,
récemment.
Ça vient de sortir. C'est vraiment très très récent. Là pour le coup. Vous en parlerez dans 8 ans, mais
on note des
okay, non, mais il y a un ostinato, c'est bon.
Tyler, the Creator, Dogtooth. Vous avez une petite idée, vous, d'un petit reco rapide? Là, on le fait un peu en mode express, je vous avoue, mais...
Vas-y, vas-y.
Moi, j'avais deux idées, mais alors je vais en dire qu'une, j'ai choisi. Je l'ai dit tout à l'heure, Jeff Mills, avec l'Orchestre National d'Île-de-France.
Ok, c'est quoi le morceau?
Bells, par exemple. Moi, je propose ça.
Est-ce qu'ils l'ont enregistré? Est-ce qu'il est disponible sur Spotify? Ou est-ce qu'il faut que je le cherche plutôt? Ouais, mais avec l'orchestre.
Avec l'Orchestre National d'Île-de-France.
Donc, il faut la version spécifique. Est-ce que je peux la trouver sur YouTube, peut-être? Ou alors c'est sur le morceau original, c'est avec l'orchestre?
Non, c'est ça a été réarrangé en fait. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un super morceau parce que on abolit les frontières entre l'orchestre symphonique et l'électro.
Eh ben c'est parti. Alors moi j'ai avec celui de Montpellier.
Ça va aussi. C'est bien, ça ira.
Ça ira. Oui, il faut trouver celui. Île-de-France,
j'aime bien. C'est bien.
C'est parti, on s'écoute ça. Jeff Mills et le Montpellier Philharmonic Orchestra, The Bells. Ça vaut le coup de regarder la vidéo en même temps.
Ouais.
On vous invite à faire ça. Parce que là, on a vraiment Jeff Mills au milieu avec les machines et puis tous les instrumentistes.
Et le chef, on voit le chef qui garde la conversation, ouais.
C'est un petit peu. Alors cette version-là, oui, 16 ans, peut-être que celle d'Anne-Claire est peut-être un peu plus récente, je sais pas.
Pareil, je pense.
Super, merci pour cette reco. Nico?
Jacob Collier et le titre All I Need. Je suis allé regarder en scred, j'avais oublié.
Alors t'es parti sur Jacob Collier, on dit comme ça.
Hein. Ouais, Collier, je sais pas.
Collier.
J'aime bien comment tu le dis. Je vais l'enregistrer, je vais l'apprendre.
Rappelle-moi, pardon, le morceau que tu veux écouter de Jacob.
All I Need, à voir absolument sur scène. Hein.
Ouais, tu l'as vu, Jacob Collier?
Jazz à Vienne, c'était magnifique. Sous la pluie, mais magnifique.
J'ai vu Louis Cole récemment, c'était vachement bien aussi. Hi. I love the way that I feel when you put your arms over me.
Sur scène, c'est pour ça, ils font tout ça en live, avec les choristes, c'est impressionnant, la précision rythmique.
De toute façon, Jacob Collier, c'est un monstre.
Ces musiciens le sont également, c'est ça qui est impressionnant. Lui, il l'est, mais les choristes, là, t'es là, vous le faites vraiment, ça, d'accord.
Tu connais Jacob Collier ou pas?
Bah non, justement.
Penche-toi,
très intéressant.
Il est très visible sur YouTube aussi, il a fait beaucoup de choses.
Ouais.
Et c'est,
sur Insta.
C'est hallucinant. C'est juste hallucinant.
Un extraterrestre.
Je note.
Ah ouais. Ouais, puis c'est l'un des rares mecs. T'es en concert, t'as l'impression que tu fais le concert avec lui, quoi. Il ne fait que te faire chanter. C'est, voilà. Concert participatif, comme on dit.
Et alors toi, Salman?
Eh bien, écoute, je savais pas trop quoi choisir, je t'avoue. Alors j'ai pris un petit truc un peu intemporel pour moi. J'y reviens régulièrement. C'est en mode un peu lofi, tu vois.
Ouais.
J'adore ce morceau. C'est de Coupla Rose Garden.
Je vais faire ça à la rentrée et à l'ENAP et tout.
Juste là.
Voilà, je voulais qu'on entende une fois.
Pas mal.
C'est extrêmement simple, très répétitif, mais t'es dedans complètement.
Ah ouais. C'est et puis ça groove.
Ouais, absolument. Merci beaucoup Anne-Claire Sebald,
merci beaucoup
Nicolas Olivier, c'était passionnant, je suis très content qu'on ait discuté de l'enseignement de la musique à l'école dans cette émission.
Ouais, pour faire péter un peu les clichés et les images d'Épinal.
Et la flûte à bec.
De la flûte à bec, saloperie de flûte
solo. Absolument. Suivez le travail de l'APMU, votre association, il y a même une revue qui sort régulièrement, alors là elle est un peu ancienne, mais il y en a régulièrement.
Ah,
là.
Voilà,
on a la celle de 2022, magnifique.
Tous les ans,
Et puis de toute façon, si on s'intéresse à ce métier, si on veut suivre un peu les débats, etc.,
exactement.
Vous avez un site internet.
Mm-hmm.
Nico, on te retrouve sur ta chaîne YouTube.
Oui, quand j'aurai
Nico
repris.
Olivier. Oh, ça n'est pas si vieille, la toute dernière, ouais, sur le cable management. Là.
C'est ça. Ouais, quelques ouais, mois, quand même. Mais ça reviendra, ça reviendra.
En tout cas, allez vous abonner.
Oui,
au
s'il vous plaît, merci.
Nico Olivier.
Tu pourras moins en faire si t'as plus d'heures de cours à donner.
Ça, c'est vrai.
C'est pas faux.
Il sera fait aux élèves, c'est la classe inversée.
Mais de toute façon, c'est ça, mais à la base, c'était pour eux, cette chaîne. Donc bon, voilà.
Et puis, évidemment, eh ben, abonnez-vous à Monte le Son si vous regardez ce podcast sur YouTube. Sinon, en version podcast, évidemment. Une petite étoile, un petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir. On se retrouve dans 15 jours. Merci à François, merci à la bouclette, merci à Daz.
Merci Salman.
Bah écoute, merci la vie.
Merci Thoman.
On se retrouve très vite.
Salman Thoman.
Évidemment. Merci Thoman. Et Thoman et la vie, c'est un peu la même chose.
Oh, il est corpo.
C'est l'air dont on a besoin. Thoman nous le fournit.
C'est beau. Merci Thoman.
Vous achetez chez Thoman, j'en suis sûr.
Ouais.
La preuve.
Ouais, bah, c'est pas ça que vous invitez.
Non, mais il faut dire que c'est un fournisseur qui travaille très bien avec les écoles. Et les enseignants souvent sont très contents d'abord de leur service après-vente, mais aussi des relations et des facilités qu'ils offrent avec les bons de commande. Et les gestionnaires aiment beaucoup travailler avec Thoman.
Et là, c'est même pas nous qui
avons.
Il est où le chat?
Nous aussi, on aime bien travailler avec Thoman.
Ouais, c'est vrai.
Non, mais c'est vrai. C'est un bon partenaire pour nous aussi.
Ouais, c'est un super partenaire pour nous. Voilà.
À bientôt tout le monde. Ciao.
Ciao.